I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Serre, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, on tripa, me serrer la main, me serrer la main, serrer la main.
Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Si le sujet de l'endométriose est de plus en plus mis en lumière depuis quelques années, on est encore loin de savoir tout à son sujet, et pour celles qui en souffrent, elles sont encore bien loin d'être prises en charge, voire même d'être prises au sérieux. Chloé fait partie de ces femmes atteintes d'endométriose qui parlent ouvertement de ce que cette maladie implique dans un quotidien de femme et de maman. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle a traversé les années en étant incomprise par le monde médical. Elle nous parle du soutien sans faille de son chéri dans les moments peu glamour et de tout ce que son corps a subi pour lutter contre l'endométriose qui revient toujours plus vicieuse même pendant les grossesses. Bonne écoute. Bonjour Chloé.
Bonjour Shane.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Je t'en prie.
Alors tu es ce qu'on appelle une endo-girl.
Oui,
tout à fait. Endo-warrior, qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors c'est une femme qui souffre d'une maladie qui s'appelle l'endométriose, voilà.
Et l'endométriose, c'est quoi ?
Alors, c'est une maladie donc, qui est très commune puisqu'elle touche environ une à deux femmes sur 10. Mmh. Et en fait, c'est une maladie gynécologique. En fait, c'est une migration de l'endomètre, ce qu'on a à l'intérieur de l'utérus, ce qu'on évacue en fait pendant les règles. Donc, ce tissu endométriosique, en fait, migre vers d'autres organes à l'extérieur de l'utérus et fonctionne comme s'il était à l'intérieur de l'utérus. Donc en fait, il va, sous l'impulsion hormonale, saigner en même temps que les règles, et ce sang ne va pas s'évacuer, et donc on va rester dans le ventre et faire des adhérences, et voilà. Donc ça, c'est un peu l'endométriose au sens large, et ça peut toucher plein d'organes, tout ce qui est organes pelviens, donc vessie, intestin, ligaments utérosacrés, ça peut descendre vraiment au niveau de la cloison recto-vaginale, donc toucher le vagin et le rectum en même temps, les ovaires, les trompes. Il y a des formes beaucoup plus sévères qui peuvent toucher le diaphragme, les poumons, et ça peut monter jusqu'au cerveau. Voilà.
D'accord. Et ça se déclenche à chaque moment des règles ?
Oui, en fait, le tissu migre en fait, au niveau quand ça saigne, donc ouais, au moment des règles. Après, tu peux avoir une inflammation quand tu as une maladie qui est assez avancée, qui peut être constante, avec des ruptures de kystes, des choses comme ça, qui ne sont pas forcément pendant les règles, en fait. Voilà.
Donc ça provoque des souffrances
Ouais, des souffrances terribles. C'est très très douloureux. Ouais. Au départ, ça commence pendant les règles. Souvent, c'est dans l'endométriose, souvent les jeunes femmes, elles sont réglées jeunes. Donc moi, tu vois, j'ai été réglée à 10 ans. J'étais encore en CM2, pour te dire. Donc ça fait un gros chamboulement quand t'es en primaire, tu t'attends pas vraiment à ça. Et donc ça fait des règles très douloureuses. Et des fois, tu peux avoir de la fièvre, on appelle des fièvres inflammatoires, enfin des fièvres d'inflammation. Il y en a qui font des malaises, qui tombent dans les pommes, des vomissements, de douleurs en fait, vraiment. Hein. T'as des douleurs pendant la miction, pendant la défécation, tu peux quasiment pas aller aux toilettes, ça crée vraiment une paralysie complète du pelvis, quoi. Voilà.
Et toi, tu as toujours souffert de tes règles à partir de tes 10 ans ?
Toujours. La seule fois où j'ai pas eu mal pendant mes règles, c'était sur mes premières règles. Je me suis dit, bon, ça va. Et après, ça a été... Après, c'est parti, j'avais très mal, je saignais énormément. C'est-à-dire que mes règles duraient 7 jours en moyenne. Et je ratais le collège. Quand j'y allais, j'avais toujours le pantalon taché. Et pourtant, je mettais une voire deux serviettes, tu vois. Voilà. J'étais tout le temps, je saignais énormément, j'étais très très fatiguée. Et ça, ça a duré, ça s'est empiré. Les douleurs se sont vraiment empirées. Et du coup, à 13 ans et demi, ils m'ont mis sous pilule.
D'accord.
Parce que j'avais mes règles en plus tous les 10 jours. Donc c'est-à-dire que j'avais mes règles 6 jours, ça s'arrêtait 3-4 jours et ça repartait. Et donc j'étais arrivée au bout de 6 mois à une anémie qui était énorme et on n'arrivait vraiment pas à me réguler. Donc ils m'ont mis sous pilule.
Et voilà. Ils disaient quoi les médecins à ce moment-là ?
Bah, c'est normal. Ah oui, c'était pas, ça choquait pas. Oui, bon, bah, oui, bah, c'est des règles abondantes. Oui, c'est des règles douloureuses. Donc, ils te mettent de l'antadis, tu vois, qui te soulage pas vraiment. Et après, ils te mettent sous pilule. Et puis voilà, quoi. Donc, la pilule, j'avais vraiment du mal à la supporter. En plus, tu vois, ça fait un chamboulement quand même au début. Et puis après, j'ai continué à la prendre comme ça jusqu'à mes 17 ans, ouais.
Et comment t'as vécu, toi, ce passage directement quand t'étais en plein dans le monde des femmes à 10 ans, en fait ?
Ben, alors, c'était très bizarre, parce qu'en plus, j'avais vraiment... Ben, t'as le corps qui se développe, hein. Oui. Quand je suis entrée en 6e, j'étais la plus grande de ma classe. Je faisais la même taille que je fais aujourd'hui, tu vois, donc 1m65, j'étais assez grande. T'as tout le monde qui est plus petit que toi. Quand tu parles à tes copines, t'essayes de leur dire, mais est-ce que toi, t'as tes règles ? Non. En fait, j'étais la seule à les avoir. Et ce qui me posait vraiment problème, c'était d'avoir les pantalons tachés, quoi.
T'as eu des remarques par rapport à ça ?
Ben, je me suis toujours bien débrouillée, un sweat autour de la taille, ou j'essayais de me changer, mais quand tu vois qu'à 10h du matin, tu commences à avoir une tache dans ton pantalon, tu dis que t'as encore 6h à tenir, ça fait des journées un peu longues, quoi. Tu sais pas trop, puis tu sais pas trop comment te mettre, et puis vraiment la tache de sang au niveau des fesses, c'est le truc, c'est la honte internationale, quoi.
Ouais.
Tu vois, alors que normalement ça devrait pas, mais c'est la honte.
Et les douleurs, comment tu les gérais à ton âge ?
Ben écoute, je n'allais pas à l'école des fois, tellement j'avais mal. Et sinon, ben ça marche, c'est pas constant en fait. Enfin, moi ça marche sous forme un peu de contraction, donc tu vois, tu sens que ça monte, tu souffles, t'attends que ça redescende, et après tu fais bon, ça va. 2-3 minutes de répit, puis ça revient, et ben tu prends. Je serrais les dents, quoi, vraiment. Hein.
Et t'en parlais avec les femmes de ta famille
Ben, je disais à ma maman que j'avais mal, mais ma maman, elle a toujours eu des règles douloureuses aussi, et très très hémorragiques, donc elle ne pouvait que comprendre ce que je vivais. Et puis des fois, quand je disais, ben maman, je peux pas aller à l'école, ben d'accord, tu vois, elle me disait pas. Elle me disait ok. Et vers 14-15 ans, on a commencé quand même à interroger. Ou peut-être même 16, les médecins en disant est-ce qu'on peut faire une échographie pour l'endométriose, parce que ma maman en avait une, elle avait une adénomyose. Et en fait, j'ai pas été diagnostiquée tout simplement parce que l'examen était mal fait et qu'à l'époque on savait pas très bien lire l'endométriose sur les échographies et que clairement, mais comme j'étais jeune, tu fais pas d'échographie endovaginale, donc tu ne peux pas te rendre compte de ce qui se passe derrière l'utérus, donc ils te font une échographie pelvienne sur le ventre, et clairement mon utérus, moi à l'époque, n'était pas très touché. Tu vois, au tout début de la maladie, l'utérus était en bon état, donc on ne voyait pas bien, donc tout de suite le diagnostic est tombé, non, ce n'est pas une endométriose, donc bon, ce sont des règles douloureuses, voilà.
Et alors, au bout de combien de temps t'as été diagnostiquée ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, j'ai rencontré donc, mon mari, j'avais pas tout à fait 18 ans, et 2 ans après, je suis partie vivre avec lui dans le sud, vers Avignon. J'avais une vingtaine d'années, et ça correspondait à la fin de mes traitements antidouleurs de par mon accident. Donc, en fait, quand je suis arrivée là-bas, j'ai arrêté mes antidouleurs. Alors là, les crises sont revenues, mais d'une force, c'est-à-dire tu t'accroches au mur quand tu vas aux toilettes, tu manques de tomber dans les pommes, tu transpires, la fièvre et tout, c'était horrible. Et c'est surtout que j'ai commencé à faire des hémorragies à des moments très anarchiques. C'est-à-dire que des fois, je me levais et d'un coup, plaf, ça partait. Mais c'est d'un coup, quoi. Ça coule le long des jambes, ça coule par terre. Donc, ça m'est arrivé une fois. Donc, j'ai été aux urgences. Vite, vite, les pompiers, machin, l'urgence. Non, ben, vous avez rien, ça saigne, faut trouver un gynécologue. Le gynécologue que tu trouves derrière, il te dit non, c'est rien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué à souffrir comme ça dans le silence pendant jusqu'au mois de mai. Donc ça, c'était en septembre. Tu vois, ça a commencé en septembre et je faisais des hémorragies au travail. On me disait que j'avais des gastro à répétition. Parce qu'en fait, endométriose, quand tu as une endométriose digestive, ça te remue tellement l'intérieur que tu te vides, quoi. Je me vidais, c'était l'horreur. Et donc, au mois de mai, Bon, mon mari était un peu démuni, tu vois, mais il avait quand même l'habitude de me voir souffrir comme ça. Donc, on avait été plusieurs fois aux urgences, on m'avait renvoyé à la maison. Et un jour, j'ai une copine qui passe qui me dit « Non, mais elle dit à mon mari, tu peux pas laisser comme ça, tu l'emmènes aux urgences. Tant pis, tu la ramènes. » Donc là, il m'a emmenée, ils m'ont laissé ressortir. Et là, il m'a dit « Ça va pas se passer comme ça, je t'emmènerai à chaque fois que t'as mal. » Et donc, sur 2 mois, il m'a emmenée 10 fois, tu vois.
Parce que tu disais que le médecin te tapait gentiment sur l'épaule. C'est ça, ouais. En te disant...
C'est ça. Et en fait, pas de chance pour moi. Pendant, sur ces 8 fois, sur ces 10 fois, je suis tombée sur le même gynécologue. Parce qu'après, j'ai appris qu'il était souvent de garde, etc. Donc, je suis tombée sur le même. Et à la fin, il refusait même de me voir, en fait, en disant « Non, non, elle a juste des règles douloureuses. Non. » Voilà, et il tapait voilà, sur la peau de mon mari, mais c'est une chouchoute, faut la booster un peu. Et en fait, au bout de la 10e fois, il disait à mon mari, le médecin des urgences, bon, le gynécologue ne veut pas la voir.
Incroyable.
Donc, on la renvoie, vous rentrez avec elle. Et mon mari m'a dit non, je ne rentrerai pas avec elle. Vous la gardez, c'est vous qui la gardez, et vous allez la prendre en charge. Parce que je veux qu'il n'y avait pas d'imagerie, tu vois, qui était faite. Il faisait juste des prises de sang, mais ma prise de sang était normale. À part une anémie forcément parce que bon, t'as, comme t'as tes règles tu perds beaucoup de sang, mais il m'a dit non, vous la gardez, vous faites un scanner, une IRM, vous faites ce que vous voulez, mais vous la gardez, je ne la reprendrai pas à la maison dans tous les cas. Et il est parti. Du coup ils m'ont gardé ce qu'on appelle en unité de UHCD, tu sais, c'est les unités, c'est les hospitalisations de courte durée qui sont à côté des urgences. Et là en fait ils m'ont fait passer une IRM et un scanner, et là on voit sur le scanner que j'ai une grosse tache au niveau de l'utérus à droite, quelque chose d'assez impressionnant, mais bon, c'est ça, écoutez, on va vous appris rendez-vous avec un gastro, c'est pas trop, le gynécologue, pour lui ce n'est pas gynécologique, il me renvoie quand même voir une de ses collègues qui fait un toucher vaginal d'une douleur horrible, et elle me dit non, vous avez rien.
Est-ce qu'ils ont abordé le sujet de l'endométriose?
Non, jamais.
Jamais.
Et 3 semaines après, du coup, je vais voir ce gastro-entérologue avec... ce chirurgien digestif, pardon, avec mon scanner. Et tu vois, j'avais déjà un peu... Enfin, j'en avais marre, hein, tu vois. J'avais déjà vu 4 gynécologues avant. J'avais vu des médecins. Qu'est-ce que j'ai? Tu vois, je me dis, c'est soit moi, je suis... Soit moi, j'ai un vrai problème de gestion de la douleur. Et vraiment, je suis vraiment une chochotte. Et il faut vraiment que je me blinde parce que sinon ma vie va être très très compliquée. Soit vraiment j'ai un problème et personne n'est capable de me dire quoi. Donc j'arrive devant ce médecin, je lui dis voilà, je vous amène mon scanner. Il me dit non, j'en veux pas. Tu te dis ok, bon, ça commence. Je vais passer un mauvais moment. Et il m'a dit bon, non mais le scanner ça m'intéresse pas. Parlez-moi de votre vie. Alors du coup je lui raconte ma vie, ce qui m'arrive, mes douleurs, etc. Et il me dit est-ce que ça vous embête si je vous ausculte, si je vous fais un toucher vaginal? Bon, je dis non, hein, tant qu'à faire, voilà. Et là, il m'ausculte et il me dit, bon, je pense que vous avez une très très grosse endométriose, mademoiselle, il faut passer une IRM. Mais alors, ce médecin, il faut se dire, tu vois, il avait 65 ans, je pense, c'est pas sa spécialité, la gynécologie, c'est digestif. Il me dit, pour moi, vos troubles viennent de là, et au toucher, je sens qu'il y a quelque chose au niveau vaginal, il y a quelque chose qui me dérange, on sent qu'il y a quelque chose derrière. Non mais le mec, j'avais été auscultée par 4 gynécologues avant, t'en as pas un qui le sent le truc, tu vois. Bon. Et du coup, il arrive à m'avoir une IRM dans les 5 jours. Et là, le verdict tombe à l'IRM. Oui, vous avez une endométriose, mais plutôt superficielle. Donc, ok. Et donc là, j'avais plus de gynéco. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, rien, tu vois, j'avais ça, ces images. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une crise, en fait, 2 jours après. Donc j'arrive aux urgences avec, cette fois, mon IRM en disant, mais... j'ai une endométriose. Et là, on retombe sur le premier gynécologue qui m'avait dit « Vous êtes une chouchoute », etc. Et donc, quand on arrive au rendez-vous, parce que là, du coup, ils disent « Oui, il faudrait quand même l'avoir parce qu'effectivement, il y a un problème gynécologique à l'IRM, on le voit. » Donc, il me prend en consultation. Il était 2h du matin, je crois. Et direct, il dit à William, à mon mari, « Vous restez dehors. Je ne veux pas vous voir dans la salle. » Donc, je rentre toute seule. Il me dit, bon, qu'est-ce qui vous arrive? Je dis, ben voilà, on a trouvé une endométriose. Il me dit, mais ça, je le savais, c'est moi qui vous l'ai trouvé. Oh. Ah, je dis, ah non, ce n'est pas à vous. Et du coup, il m'ausculte, il dit, oui, ben de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Du coup, il fait rentrer mon mari, il dit, ben écoutez, voilà, faut faire une célioscopie, mais là, je peux pas, c'est l'été. C'est vrai que c'était l'été, hein, on était en tout début juillet. Bon, ben oui, il faudrait faire ça. Et là, c'est parti. Bon, ben, il lui a dit, écoute, il dit, écoute-moi bien, toi, avec ce que tu nous as fait, tu vas l'opérer bien, parce que sinon, ça va pas le faire, quoi. On peut pas laisser les gens comme ça, donc tu vas rattraper ce que t'as fait avant et tu vas lui faire une scoloscopie très rapidement. Et du coup, on a laissé passer 6 semaines. Et tout début septembre, j'ai eu une scoloscopie exploratrice. Donc normalement, ça dure une demi-heure.
Alors, tu vois. C'est quoi exactement ?
Ben, en fait, ils te font des petits trous dans le ventre, ils passent une caméra. Parce que comme l'endométriose, c'est une maladie qui est un petit peu vicieuse, tu la vois pas très bien aux images. Des fois, ça se développe en plaques. Donc ça, les plaques, tu les vois pas très bien à l'IRM. Donc je vais faire cette scoloscopie, je rentre le matin. Et là, je suis restée 5 heures au bloc, tu vois. Et là, je me réveille avec les ovaires attachés au niveau du ventre. Avec les fils qui sortaient, tu vois. En fait, ils ont attaché les ovaires à la paroi abdominale parce qu'en fait, comme ils ont nettoyé pour pas que ça retombe et que ça se recolle, ils te les attachent au niveau du ventre où t'as les fils qui sortent. Et tu ne peux pas bouger, tu restes allongée. Et là, il me dit, écoutez, il y avait un travail monstre, l'urtère était coudée, donc ce qui va des reins à la vessie. Donc il faut savoir que des fois j'étais pliée en deux, je ne pouvais même plus respirer tellement j'avais mal. Je faisais infection urinaire sur infection urinaire, donc on me traitait pour ça. Mais en fait c'est que j'avais un problème au niveau du rein, dû à l'endométriose. Il me dit j'ai retiré un ligament utérosacré, j'ai nettoyé la vessie, enfin j'ai décollé parce que les ovaires étaient collés sur l'utérus avec les trompes. Enfin, du coup j'ai nettoyé, bon. Par contre, vous avez une grosse lésion en recto-vaginale, donc qui est complètement derrière le vagin. Pour moi, faut pas l'opérer. C'est une opération morbide avec une pose de stomie. Moi, je me lance pas là-dedans. Et puis, moi, je serai vous, je resterai comme ça. Ok. Bon, ben, d'accord. Donc, je reste couchée mes 4 jours avec mes ovaires attachés, donc avec tout ce que ça. Tu vois, donc tu peux pas aller aux toilettes, tu peux pas te laver, tu peux pas manger correctement. Donc, bon, ok. Et je revois 3 mois après. Pour le rendez-vous post-op. Donc déjà, je trouvais que 3 mois après un rendez-vous post-op, c'était un peu léger. Et là, il me voit, il me dit, écoutez, je vous mets 1 an sous un traitement qui s'appelle Luteran, et on se revoit dans 1 an. Mais je dis, mais moi, ça va pas.
Pendant les 3 mois, t'avais pas eu d'amélioration ?
Non. J'ai eu une amélioration très courte, parce que forcément, j'avais des douleurs qui avaient un petit peu disparu au niveau du ventre, avec tout ce qu'il avait retiré. Mais c'était toujours l'horreur. Je souffrais beaucoup. Et je dis, mais moi, je ne peux pas rester comme ça. Si, si. Et donc je suis partie en colère, je me rappelle, je lui ai jeté l'ordonnance, je lui ai balancé comme ça, je lui ai dit de toute façon vous êtes un connard, et je suis partie. Ouais, j'étais très en colère, je suis partie en pleurant et tout. Et donc rebelote, point zéro, pas de gynécologue, pas d'option, tu vois. Donc comme je travaillais beaucoup à l'époque, je travaillais à 2 heures de chez moi, bah, j'étais très pris dans mon travail, donc je restais un peu là-dedans, je me disais bon, de toute façon ça va se débloquer un moment, mais... Fallait que j'ai un coup de pouce, mais je savais pas d'où il allait arriver, tu vois.
Et t'arrivais à travailler justement avec toutes ces douleurs ?
Ah, c'était hyper dur. Ah ouais, c'était, tu vois, je faisais 2 heures de trajet le matin, 2 heures de trajet le soir, plus ma journée de boulot debout, c'était super dur. Je sais pas trop comment je tenais, peut-être parce que j'étais plus jeune, tu vois, justement. Mais en fait, souvent, je bossais la semaine et le samedi soir, j'allais aux urgences. Ils me gardaient des fois le week-end pour des injections de morphine et je ressortais, je repartais au boulot, tu vois. Et ouais, je souffrais, c'était la cata.
T'en avais parlé à ton employeur ou pas du tout de cette maladie ?
Ben, j'avais été obligée parce que du coup j'avais été opérée. Okay. Donc, et c'était 6 mois après c'était 6 mois après le début de mon boulot, donc je lui avais dit, mais tu vois, mon supérieur c'était un homme qui plus est, tu vois, il est homosexuel, donc lui les règles, tout ça c'était vraiment pas, tu vois, de son. Il avait pas forcément de femme à la maison, donc c'était très éloigné de lui, il comprenait pas du tout ma maladie. Je lui expliquais, je lui disais, mais tu comprends, c'est comme ça, ah bon, ah ben non, mais... ok, d'accord, mais c'est grave, ou est-ce que c'est pas grave, ou, tu sais, il comprenait pas trop, donc c'était, après je n'en veux pas, hein. C'était clairement pas son domaine, hein, tu vois, mais après par contre, il me laissait, quand je disais j'ai mal, faut que je rentre, il était super sympa, il me disait, ok, rentre, tu vois, donc voilà, et... ce qui s'est passé, c'est qu'en février, j'allais vraiment très très mal. Donc 2 mois après, je vais chez mon médecin traitant et pas de chance, elle n'était pas là. Je vois son remplaçant. Enfin, pas de chance, oui, du coup, beaucoup de chance. Et quand il m'a vu, il m'a dit, mais vous pouvez pas rester comme ça. Vous savez qu'il y a un centre à Nîmes. Donc moi, j'étais au-dessus d'Orange, tu vois, donc c'est à 70 km. Il y a un centre à Nîmes qui pourrait vous prendre en charge. Je les appelle. Donc, du coup, en fait, il les appelle, il fait un courrier, il me prend un rendez-vous. Sauf que j'avais rendez-vous en mai, le 28 mai exactement, tu vois, avec le gynécologue. Et on était en février quand même. Nous, on se mariait au mois de mai, le 18. Je me suis dit, ça va être chaud pour que je tienne jusque-là. Et d'ailleurs, le mariage a failli être annulé 2 semaines avant parce que j'étais hospitalisée pour douleur. Mais bon, j'ai tenu le coup. Et le 28 mai, j'ai rencontré le gynécologue du centre de Nîmes qui, quand a vu le compte-rendu opératoire que j'avais fait de l'opération 6 mois avant et l'examen clinique, m'a dit « Je vous opère dans maximum 2 mois ». Pourquoi 2 mois? Parce que j'avais plein d'examens à faire, parce que c'est une chirurgie qui va être très lourde. Il m'a dit « C'est une chirurgie lourde, je ne vais pas être tout seul sur le coup, il faut rencontrer le chirurgien digestif, il faut faire une rectoscopie, il faut faire d'autres examens. Donc c'est le temps que tout ça se mette en place, tu vois. »
T'étais enfin prise en charge, comment voilà. T'as vécu?
Je me suis dit « Bon, ok, on y va. » Et tu vois, j'avais pas vraiment conscience de ce qui allait m'arriver quand même. Parce qu'on me dit « chirurgie lourde », tu vois, on te dit ça, tu te dis « Bon, ok, c'est quoi une chirurgie lourde finalement ?» Ouais. Tu vois, bon. Et donc j'ai fait la rectoscopie, ils me disent « Bon, en fait c'est une échographie au niveau du rectum, donc t'es pas endormi hein, pour ça. Hein. » Donc ils te le font, et après ils passent une caméra pour voir, en fait ils voulaient voir si la lésion recto-vaginale avait traversé à l'intérieur du rectum. Parce que si ça traverse, ils retirent en fait, ils font une ablation du rectum, ils coupent le morceau. Là, a priori, ça n'avait pas traversé, sauf que t'as 3 couches au niveau des intestins. Et donc ils essayent de voir si ça a traversé 2 couches ou 1 couche. Ou voilà. Bon là, lui était assez confiant, mais il m'a dit, c'est pas, enfin moi je suis pas chirurgien, hein, je suis technicien, pour moi c'est bien, il n'y aura pas de stomie. Bon, je vois le chirurgien digestif qui me présente la stomie quand même, tu vois. On en parle, il me dit ça va être lourd, je sais pas, on voit pas très bien sur les images, donc on sait pas dans quoi on s'engage. Bon voilà, je vois tout ce petit monde, et mi-juillet, ils me disent, on vous opère le 29.
Parce qu'en fait, ils prennent toutes les décisions pendant l'opération au vu de ce qui...
Ben en fait, ils essayent de prendre un maximum avant. Mais bon, tu vois, l'endométriose, c'est tellement une maladie vicieuse qu'ils savent très bien qu'ils vont avoir des surprises à l'ouverture. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le 29 juillet, du coup, je suis restée, je crois, c'était 8 ou 9 heures au bloc. C'était un très, très gros bloc. Je me souviens de mon réveil parce que quand j'ouvre les yeux, j'avais envie de mourir, tu vois, tellement je souffrais. Là, j'ai compris l'impact du mot lourd, tu vois. Ouais. Et en fait, il m'a dit, quand on a ouvert, on s'est dit, oh, ça va. Effectivement, il y a une lésion. Et en fait, il m'a dit, quand on a commencé à basculer derrière la vessie du utérus et glisser dans la paroi rectovaginale, il m'a dit, là, c'était. Ça avait envahi le périnée, l'asiatique, le sacrum. C'était complètement accroché à l'os. C'était une très, très grosse lésion et ils ont mis un temps fou à la défaire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont été obligés de faire une résection du rectum, donc couper un morceau. Et en fait, quand ils ont voulu suturer, il y a eu un problème. Et du coup, ils ont été obligés de me poser une stomie. Donc, je me suis retrouvée avec une stomie. Donc là, tu te dis, tu te réveilles. Je me touchais un peu partout. Je voulais savoir si j'avais la stomie, tu vois. Et l'infirmière, elle me l'a dit tout de suite. Oui, vous avez une stomie. Bon, donc là, tu sais que t'es pas sortie de suite, quoi.
Ouais.
C'est hyper dur. Et je suis restée presque un mois hein, hospitalisée. Hein.
Ah oui,
parce que déjà au début, tu te lèves, tu te réveilles, j'avais la pompe à morphine, les drains, la perfusion, la sonde urinaire, la poche. Et il te faut un semi-remorque pour te transporter, tu vois, tu te lèves pas comme ça. Donc j'ai quand même réussi à me lever rapidement et tout, mais le problème qui s'est posé, c'est que quand ils ont opéré la vessie, il y a eu une atteinte des nerfs et ils ont été obligés de nettoyer. Et en fait, je me suis retrouvée à pas pouvoir uriner, en fait. Donc, quand ils m'ont retiré la sonde, j'ai fait un globe. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis restée sondée tout le temps de mon hospitalisation et que quand ils me désondaient, je n'arrivais absolument pas à aller aux toilettes. C'était un drame hein, pour moi. Hein. C'était un truc... je crois que c'était peut-être le pire parce que tu te dis, j'ai une stomie, une sonde urinaire et je vais être comme ça pendant je sais pas combien de temps, quoi. Donc, bon.
Est-ce qu'il te parlait du sujet de la maternité à ce moment-là, pour savoir si tu pourrais avoir des enfants?
Alors, mon gynécologue, lui, était plutôt... il m'a dit, franchement, l'utérus est pas trop abîmé, quand même. Mmh. Avec ce qu'on a fait, c'est possible. Mais avec la chirurgie qu'il y a eu là, ça va être compliqué. Parce que quand il me dit ça, j'avais toujours la poche. Je pouvais pas uriner toute seule. Donc, pour une grossesse, c'est un peu compliqué, quand même. Il m'a dit, écoutez, ça c'était en août du coup, il m'a dit, on verra l'année prochaine, peut-être.
D'accord.
Voilà, à voir comment ça évolue. Et donc, en fait, ils m'ont fait, au bout de 3 semaines, ils m'ont fait une remise en continuité. Donc, en fait, ils m'ont retiré la poche pour remettre, relancer un peu le transit, etc. Donc là, c'était un bloc très compliqué. Je pourrais plus te dire exactement pourquoi, mais le réveil était très dur. J'ai souffert, en fait, parce que quand tu ouvres, tu touches forcément des nerfs, etc. Et donc, ça a été hyper dur derrière. Je souffrais, c'était l'horreur. Et du coup, je suis sortie une semaine après en auto-sondage. Parce que je ne pouvais pas toujours pas aller aux toilettes. Donc il faut savoir que quand tu as une remise en continuité, tu vas aux toilettes 10 fois parce que tu as l'impression que tu vas te faire dessus en permanence, alors qu'en fait c'est juste le rectum qui essaie de se rééduquer. Et en parallèle, je m'auto-sondais parce que je pouvais pas uriner toute seule. Donc je regardais l'heure, ça m'est arrivé de me faire pipi dessus. Parce que des fois, tu t'es pris dans un repas, tu fais pas attention et d'un coup tu fais merde, je suis en train de me faire pipi dessus. Ça c'est affreux. Et bon, du coup, après, tu vois, je faisais des autosondages réguliers, donc ça, j'ai pris le coup. Mais le problème des autosondages, c'est que souvent, t'as des infections urinaires, hein, parce que c'est quand même un corps étranger. Faut bien désinfecter les mains, faut porter des gants. Enfin, tu vois, c'est quand même hyper contraignant dans la vie de tous les jours. Bon, bref, en plus, ils t'apprennent à t'autosonder à l'hôpital. C'est-à-dire que t'as un infirmier qui est avec un miroir, qui te pose dans le lit, qui te dit, voilà, alors maintenant, vous allez écarter les jambes, je vais vous montrer comment faire. Donc, tu vois, t'es super à l'aise, quoi, tu vois, c'est un moment... bon, là, j'avais complètement zappé le truc, tu vois, je m'étais tellement montrée tous les jours qu'au bout d'un mois, tu laisses complètement filer. Et j'ai eu de la chance pendant cette hospitalisation, c'est que mon mari, il a dormi avec moi tous les soirs.
Bah justement, ton mari, quand tu l'as rencontré, comment t'as pu aborder le sujet avec lui, l'endométriose ?
Ben, en fait, je savais pas que j'avais ça à l'époque. Donc on s'est rencontrés, on était jeunes. Lui, il habitait à Avignon, moi à La Rochelle, donc on se voyait pas tout le temps. Donc il me voyait pas tout le temps dans ces souffrances-là. Et honnêtement, je m'arrangeais pour pas avoir mes règles quand je voyais, tu vois. Donc c'est vrai que des fois, j'ai enchaîné 2 plaquettes de pilules en me disant « Non, je peux pas avoir mes règles, je vois une semaine et te coucher une semaine. » Donc il me voyait pas trop comme ça, en fait. Et c'est venu après. Mais il a été pris dans la maladie et tu vois, il m'a jamais lâché... Il m'a jamais lâché, tu vois, quand on lui dit non, vous restez dehors, il dit non, moi je reste pas dehors, je rentre. J'ai pas à rester dehors, quoi. Parce que, et des fois, il parlait même en mon nom, parce que quand t'es prostré comme ça, dans la douleur, tu vois, moi je suis hyper renfermée quand je suis dans ma douleur, je suis très. J'essaie de me centrer pour pas péter un plomb, parce que sinon, pour pas vomir, pour pas tourner la pomme, tu vois, j'essaie de penser à des choses positives. Du coup, c'est plutôt lui qui s'exprimait en disant, il y a un problème, ça va pas, etc. Donc il a été super présent. Et pendant toute hospitalisation aussi. Et il m'a facilité vraiment la vie parce que, tu vois, des fois, le personnel hospitalier ne fait pas attention. Il rentre, il est 3h du matin, il tambourine la porte. Alors que, tu vois, toi, tu dors pas déjà. Alors que, il disait, non, mais là, vous voyez, elle dort. Ben, repassez dans 1 heure, laissez-la dormir. Tu vois, un jour, ils ont voulu me donner à manger. Alors que ça faisait une semaine que je n'avais pas mangé. Ils me donnent un steak haché puré, tu vois. Le truc, il me dit, mais mange, mange. Et je dis, non, je vais vomir. Et du coup, tu vois, il m'a quand même aidée parce que je suis restée 5 heures comme ça avec l'envie de vomir. Et ça, t'as peu d'hommes qui te disent, tu bois, je vais te faire vomir, tu vas mieux dormir après, tu seras mieux mâchée, tu vois. Je connais personne qui ferait ça, tu vois. Et qui supporte la poche, parce que la poche, des fois, des fois elle fuit, hein, tu vois. Donc c'est pas super glamour. Et il est resté, il a dormi, sauf une nuit où il est rentré. Pour faire des lessives, des choses comme ça, parce que ça faisait quand même 2 semaines qu'on était à l'hôpital et que, tu vois, on avait quand même notre vie à côté, notre appartement, et qu'il fallait quand même rentrer chez nous une fois. Et ce soir-là, j'ai été... ils m'ont réincisé parce que je souffrais, j'avais beaucoup de fièvre, et en fait, j'ai fait un abcès. Et en fait, ils m'ont réincisé en chambre, sans anesthésie, à 1h du matin, tu vois. Et c'est la nuit où il était pas là. Donc je pleurais au téléphone, je me disais, mais reviens, tu vois. Il me disait, non, mais t'inquiète, ça va aller, t'es fort, tu vas y arriver et tout. Bon, j'y suis arrivée finalement. Mais il a été avec moi tout le long, tu vois. Il m'a pas lâché jamais sur cette hospitalisation. C'était... et heureusement qu'il était là, quoi. Ça a été vraiment un pilier, tu vois, pour moi. On faisait rien, on regardait la télé, ou moi je dormais, mais je savais que quand j'ouvrais les yeux, il était là. Ouais. Et ça, c'est super important, il m'aidait à prendre ma douche. Dès que j'avais un problème, je m'adressais à lui, tu vois. Ça, c'est super important. C'est super important, et puis j'avais peur qu'il s'en aille quand même, tu vois. C'était quand même 2 mois après notre mariage. Tu te dis, pour le meilleur et pour le pire, surtout pour le pire chez moi, tu vois. Donc, j'étais. Mais il était super présent, et puis il n'avait pas l'air de... Tu vois, il avait l'air de... Il menait de front, tu vois. Je sentais vraiment que c'est... Voilà, il n'avait pas peur, quoi. Donc ça, c'était super important.
Et alors, quand est-ce qu'est arrivé le sujet de la maternité ?
En fait, du coup, la maternité, à la base, on m'avait dit que je n'aurais pas d'enfant. Pas du tout. Le premier gynéco m'avait dit que vous n'aurez jamais d'enfant. Donc, comme il m'a opérée en septembre, on a très vite décidé de se marier parce qu'en fait, on avait un projet d'adoption. Et quand moi, j'avais 22 ans, lui avait 27. Et clairement, quand t'as moins de 30 ans, tu peux pas adopter à moins que tu aies 5 ans de mariage. Donc moi, j'aurais pas eu... j'avais, il me fait 8 ans pour avoir 30 ans, quoi. Donc on a décidé de se marier en se disant, on se marie. Et moi, j'aurais eu 27 ans au moment de nos 5 ans de mariage, tu vois. Donc c'était nickel.
Et comment tu l'as vécu, toi, le fait de pas pouvoir avoir d'enfant, qu'on t'annonce ça?
J'étais pas triste parce que je m'étais dit, de toute façon, je serais maman. Je le savais au fond de moi que je serais maman un jour... par n'importe quel moyen, tu vois. Et puis moi, j'ai été adoptée déjà, donc c'était l'adoption, pour moi, c'était pas du tout un sujet tabou. Pour moi, c'était une continuité. J'étais très contente d'avoir ce projet-là, et puis j'étais contente d'avoir 5 ans devant moi pour pouvoir le réaliser et me dire bon, voilà, ça va prendre tant de temps, c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave. De toute façon, il fallait que je m'occupe de moi aussi, et je m'étais dit bon, ben voilà, on se marie. On s'est mariés au mois de mai 2013, et on s'est dit c'est bon, on est parti pour 5 ans, et voilà, ce sera très bien. Après, on voulait quand même tenter la FIV, tu vois, parce qu'on nous l'a proposé, mais je savais que je voulais pas m'acharner, parce que tu fatigues aussi, tu vois, avec ces traitements hormonaux, etc. Donc je m'étais dit, on va tenter, ça passe, ça passe pas, tant pis, on restera. On n'était pas, tu vois, j'ai jamais eu une grosse baisse de morale, j'ai jamais pleuré en me disant, où est-ce que... Enfin, comment je vais faire pour être maman, etc. Ce qui me faisait beaucoup pleurer, c'était les autres, tu vois. Quand les infirmières venaient dans ma chambre et voyaient, comme ils disaient, oh là là, mais vous êtes dans un état. Ah, mais ça, tu vois, moi, ça direct, tu me dis ça, ça me fait pleurer, parce que je prends en pleine face ce que je suis, tu vois. Mais non, la maternité, ça m'a pas fait pleurer, donc bon. Et du coup, en janvier, en rendez-vous post-op, on décide de faire une dernière injection de décapeptile. Donc en janvier 2014.
Donc, c'est quoi les injections?
Ben en fait, c'est des injections décapeptiles, c'est une vraie ménopause artificielle, en fait. Hein. C'est une injection qui te fait chuter ton taux d'œstrogène. En fait, tu n'en produis plus, donc tes ovaires sont au repos complet. Donc tu n'as plus de règles, en théorie. Tu n'ovules pas, en théorie. Voilà. Mais il y a toujours un petit...
Et ça sert à quoi, injection.
Ben, ça sert à stopper, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce que ça n'a pas une vraie valeur prouvée, hein, de ces... stopper, hein, mettre un petit peu la maladie en repos, au repos, en fait.
D'accord.
Et moi, ce qui se passait, c'était surtout qu'ils voulaient pas que je tombe enceinte dans la foulée de l'opération, ce qui était quand même hyper problématique avec l'opération que j'avais eue. Donc pour eux, j'étais stérile, mais on sait jamais, tu vois, faut pas que je tombe enceinte quand même, on sait jamais, on met ce traitement là. Donc ils m'ont mis ce traitement, et en janvier ils me disent, bon ben, on fait une dernière injection de 3 mois et dans 3 mois on se revoit et on démarra un protocole de FIV. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée enceinte naturellement début mars.
Mais moi, comment tu l'as su ?
Ben, j'étais très très fatiguée. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui dort pas énormément. Je dors peut-être 5 heures, 6 heures par nuit. Et là, je dormais toute la journée. Mais c'est-à-dire, j'avais la tête de la fille qui était malade, quoi. Ouais. Pas bien, épuisée. Mais ma mère et mes grands-parents viennent la semaine... Enfin, viennent me voir une semaine dans le sud. Et ma mère qui me dit, mais Chloé, mais tu peux pas rester comme ça, tu traînes. Non, mais tu dois avoir une mononucléose, c'est pas possible. Il y a quelque chose. Et c'est vrai, je me traînais. Je marchais, j'avais des courbatures, je dormais. Et le jour où ils partent, je me couche le matin. Ils partent à 9h du matin, je me couche et je m'endors. Je me réveille à 17h. Je me relève, je me recouche à 19h et je dors toute la nuit. Et le lendemain matin, mon mari me dit, attends, je cherche un test de grossesse, il y a un problème.
À
mon mari, c'est un aimant, enfin, tu vois, c'est un détecteur à femme enceinte. Il me dit, je suis sûre que t'es enceinte. Et là, je fais le test, positif, enceinte, quoi.
Comment tu
réagis ? Ah, ben là, j'étais trop contente. Ah là là, c'était. Je me suis dit, non, c'est pas possible. D'ailleurs, j'ai appelé ma mère direct. Maman, je suis enceinte. Elle me dit, pourquoi tu me l'as pas dit hier ? Parce que je savais pas. je savais pas que j'étais enceinte. Et on était trop contents.
Et il y avait un danger quelconque à ce moment-là,
ben,
que tu étais enceinte ?
Alors, quand j'ai appelé le gynécologue, je lui ai dit, je suis enceinte. Il m'a dit, c'est pas possible. Venez tout de suite.
D'accord.
Venez tout de suite. Ils m'ont fait l'échographie dans les 3 jours, tu vois. Parce qu'il risquait vraiment une grossesse extra-utérine, ce qui s'est révélé pas le cas, du coup. il m'a dit, bon ben, vous allez être hyper surveillée. Et ça n'a pas manqué, tu vois. 3 semaines après, j'ai fait un décollement du sac. Et donc, j'ai perdu énormément de sang. On s'est dit, c'est mort. C'est fini. Et en fait, non, c'est juste le sac qui s'est décollé. Donc, je suis restée alitée. Jusqu'à là, presque 4 mois, tu vois, le temps que tout se recolle bien. Mais j'avais quand même toujours ces problèmes de saignement. Je saignais tout le temps en permanence. On ne savait pas trop d'où ça saignait, mais je saignais tout le temps. Donc, je suis restée couchée une grosse, grosse partie de ma grossesse. Et à 6 mois, il me vérifie le col, et là, le col ouvert, donc rebelote, couchée, et je signais toujours. Donc je suis restée couchée de septembre à décembre. C'est très très long.
Ouais.
C'est surtout que j'avais été couchée de avril à juillet, presque, tu vois, déjà, donc je commençais à en avoir... J'avais juste passé l'été, en fait. J'ai profité de mon été, et après, c'était fini. Et donc, notre fille est née à terme, quasiment.
Est-ce que ça a apaisé tes douleurs pendant
non.
ta grossesse ?
Non, parce que le problème, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte après. Tu vois, sur le coup, je comprenais pas pourquoi j'avais mal et pourquoi je saignais comme ça, mais en fait, j'avais une grosse récidive de la maladie pendant la grossesse. Et donc, forcément, ça tire sur les adhérences aussi, tu vois, comme j'avais été opérée pas très longtemps avant, parce qu'en fait, notre fille est quand même née 15 mois après le bloc. Mmh. Mais forcément, les cicatrices, ça fait des adhérences. Tu vois, j'ai toujours ma cicatrice de stomie qui était hyper douloureuse encore, tu vois. Et du coup, quand ton ventre grossit, ben, ça tire, tu vois. Ça tire. Donc, je souffrais quand même beaucoup. Il a été question qu'il m'hospitalise pour me faire des injections de morphine. Mais moi, je voulais pas. Même si on me dit, ça craint pour le bébé. Non, c'est mort. Je suis enceinte. On met pas de morphine. C'est impossible pour moi. Donc, je restais allongée pour le bébé, pour ma fille. Et aussi pour un peu diminuer mes douleurs d'adhérence, tu vois. Bon. Et au mois de décembre, ils nous disent, bon, ben là, maintenant, il faut bouger, il va falloir accoucher, quoi. Donc, ok, mais la sage-femme qui me suivait, quand même, elle me disait, il y a des problèmes au monitoring. Plusieurs fois, elle m'avait envoyé sur Nîmes en me disant, le cœur, ça va pas. Mais en fait, le problème, c'est comme j'avais quand même 45 minutes de route, le temps que j'arrive là-bas, le cœur, il repartait, c'était nickel, donc ils me renvoyaient à la maison. Et le 5 décembre, donc le jour de l'anniversaire de mon mari, elle vient et là elle fait un monitoring. Elle me dit là par contre ça va pas du tout, il faut partir tout de suite. Donc on part au CHU. Ils me font un monitoring qui dure 4 heures parce que en fait ils voulaient voir une fois que mon corps était plus reposé, une fois que j'étais allongée, comment ça se passait. Et en fait, une fois toutes les 10 minutes, son cœur il chutait à 50 pulsations minute, sachant qu'un nouveau-né c'est 150, je crois. Enfin, dans le... in utero, c'est le cœur bat très vite. Donc c'est entre 130 et 150, je crois. Là, 50. Mais ça faisait un vrai ralentissement, tu vois. Et donc là, ils viennent, ils me font une échographie, ils me disent, de toute façon, il n'y a plus d'eau. Donc je n'avais pas perdu les os, mais je n'avais plus d'eau. Et ils nous disent vraiment, votre fille, c'est un poisson dans une piscine vide, il faut la sortir, quoi. Donc on vous déclenche. Donc tu sais, ils m'ont vendu le déclenchement. Moi, je l'ai acheté, le truc. Hein. Ils m'ont vendu comme du rêve. On va vous poser un propèse, donc c'est une espèce de languette qui te pose sur le col. Dans 10 heures, vous allez avoir vos premières contractions, vous surveillez, vous inquiétez pas, vous allez manger, votre mari vous fait un petit massage, vous allez prendre une douche, vous allez dormir, on en reparle demain. Donc moi, je l'ai acheté, le truc, ok. Et en fait, au bout de 20 minutes, j'ai commencé à me sentir très très mal, à devenir toute blanche. Et là, je suis vraiment tombée. Le cœur s'est arrêté au monitoring, net. Le cœur s'est arrêté. Et en fait, j'ai fait une hypertonie, c'est-à-dire j'ai eu une première contraction très très longue. Et en fait, mon utérus est resté coincé en contraction. Mais en fait, la sage-femme s'est rendue compte tout de suite qu'il y avait un problème. Elle a appelé la gynécologue, donc on s'est retrouvés avec tout un staff. Ils étaient 7, tu vois. Un qui te déshabille, l'autre qui te retire le propèse, l'autre qui te met l'oxygène, l'autre qui te met les hormones pour que l'utérus se décontracte. Et en fait, c'était question de la césarienne imminente. Mais comme le cœur est reparti, ils m'ont laissé comme ça. Parce qu'il y avait le problème qu'ils ne voulaient pas me faire de césarienne dû à mon endométriose, parce que j'avais quand même un gros risque d'hémorragie. Et donc en fait, ils m'ont fait tenir comme ça pendant 15 heures, avec des contractions toutes les 2 minutes, et un travail qui n'avançait pas, puisque notre fille est née le lendemain matin, et j'étais dilatée même pas à 3, alors que j'étais arrivée à 1,5, tu vois. Et donc là, ils m'ont fait une césarienne en urgence, pas le choix. Et elle est née hypotonique, tu vois, en souffrance fœtale très importante, puisqu'elle est née à 2,5 kg à terme. Elle était complètement... tu vois, elle n'a pas les réflexes du nouveau-né, elle n'a pas fait exactement ce qu'il fallait. Hein. Voilà. C'était hyper dur pour elle, elle était en couveuse, hein, en réa néonate. Bon, après, c'est revenu, hein, mais sur le coup, ça a été hyper dur. Et moi, surtout, quand ils ont ouvert La gynécologue qui m'a ouvert m'a dit « Ah ben là, faut opérer. » Parce que je peux pas refermer, en fait. Parce que les adhérences m'empêchent de refermer.
Ah, oui.
Donc en fait, ils m'ont ouvert. Ils ont sorti la petite. Par derrière, j'ai fait une hémorragie à la délivrance. Donc là, il faut gérer l'urgence, tu vois, parce que... En plus, ils te décomptent à voix haute. Donc tu vois, tu dis...
On est à 200. Toi,
moi, j'étais consciente, ouais. Donc enfin, consciente, oui. Entre temps, j'ai vomi au bloc, enfin, tu vois, les trucs, parce que ça te chamboule quand même. Tu sais, une césarienne, moi je pensais qu'on sortait le bébé, tu sentais rien, mais pas du tout. En fait, c'est vraiment. Il te secoue dans tous les sens, faut le sortir quand même. Et elle a commencé à décompter, t'entends quelqu'un qui dit ça saigne. Oui, on a combien? 200, on a 300, on a 400, on a 500. Et donc là, il faut vite, vite, tu vois, tu sens que ça c'est autour de toi. Et William, il a posé la main sur ma tête, il m'a dit dors, repose-toi. Ça va aller, tu vois. Mais il m'a dit, à ce moment-là, j'ai cru que j'allais partir tout seul. Il m'a dit, je me suis dit, entre ma fille qui est là-bas en couveuse et toi qui est là, qui te vide, il m'a dit, j'ai cru que j'allais repartir tout seul, en fait, sur ce moment-là. Mais bon, après, ils m'ont opéré, ils ont laissé William avec moi et ils m'ont amené Nina, qui était en couveuse, pour que je puisse la voir, parce que je l'avais pas vue, du coup. Et du coup, ils m'ont posé à côté de moi, ils m'ont mis la couveuse à côté de moi et William était à côté de moi pendant toute l'opération. Donc ça, c'était cool. Bon, même si je me suis endormie parce que j'étais... Ils m'ont tellement shootée quand même, parce que l'opération, c'était un petit peu long, donc ils te shootent. Bon, j'ai pas trop profité, mais je l'avais quand même à côté de moi. Je pouvais pas... Je la voyais un peu, tu vois, mais je pouvais pas la toucher, mais je la voyais un peu. Bon. Et du coup, ils m'ont opérée derrière, pour retirer d'adhérence tout ce que j'avais récidivé pendant la grossesse. Donc c'est un accouchement de haut vol. Et après, ils m'ont dit, par contre, vous n'aurez plus jamais d'enfant.
Ah oui.
Et je me suis dit, tant mieux, j'en veux plus, parce que c'était trop dur. Franchement, tu vois, ils m'ont raté 6-5 fois la péridurale, ils m'ont réussi au bout de la 6e. Enfin, c'était un accouchement qui était physiquement très très éprouvant, et je me suis dit, je veux pas revivre ça, jamais. Et je veux jamais revoir un bébé aussi en mauvais état à la naissance. Tu vois, je me suis dit, je vais la perdre, on a fait tout ça pour ça.
Ouais.
Tu vois, je me suis dit, ça... je veux plus vivre ça, quoi.
Et tant pis. Ça a été vite mieux, ta fille?
Ben écoute, à un mois, elle faisait 2,9 kg, elle a récupéré un peu... Petit à petit, je dirais aller à 2 mois, ça c'est bien.
Vous avez pu rentrer assez rapidement à la maison?
12 jours.
12 jours?
Ouais. Elle a refait un petit séjour quand même, parce que au niveau de l'allaitement, bah, quand t'as une césarienne, et t'as... tu vois, j'avais la césarienne plus l'opération, donc j'ai pas eu le peau à peau tout de suite.
Mmh.
Moi j'ai pas vraiment pris conscience que j'étais maman quand même, parce que faut savoir que quand je suis rentrée dans la chambre, j'ai demandé au personnel si je pouvais la porter. Tu vois, le décalage. Et du coup, j'ai une montée de lait qui a été hyper tardive. 7 jours, je crois. Et du coup, c'était une vraie galère pour l'alimenter. Je l'allaitais, mais elle s'épuisait, en fait, au sein. Donc, elle prenait pas de poids. Et donc, ça a fini qu'on est retourné en néonate pour se faire aider, etc. Mais elle a... Après, elle a démarré, quand même.
Parce que toi, tu devais reprendre des forces aussi, j'imagine, de ton côté?
Ben non, tu sais, moi, je me suis... Elle est née à 9h du matin. Je suis sortie du bloc à 13h, je crois. 15h, j'étais en chambre. 16h, j'étais habillée, maquillée, prête à accueillir tout le monde. Bonjour. C'est moi, tu sais, moi j'ai besoin de redémarrer vite après les blocs pour laisser passer derrière moi. Et du coup, direct, j'étais à fond, ok, on s'occupe d'elle. Mais bon, tu vois, c'était quand même pas drôle, tu vois, elle était quand même branchée. Puis ils lui font des. Ils testent sa glycémie souvent. Bon, mais bon, elle, ça a été, tu vois, elle a mis quelques semaines, mais après c'était parti. Mais elle était toute petite, hein, ça fait drôle, hein.
Ouais.
Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un gros poupon, tu vois. Mais après, elle a bien démarré, donc ça allait.
Est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman?
Ben oui et non. Enfin, après, comme une maman normale. Hein. Enfin, comme toutes les mamans, je pense, j'apprenais. Tu vois, il y a des choses que j'ai fait avec elle que j'ai pas fait pour mon deuxième. Parce que vraiment, t'apprends, tu te dis... bon là, est-ce que c'est pas normal, elle a pas fait caca depuis 2 heures, mais comment ça se fait, c'est pas normal. Mais du coup, j'appuie, je dis non, mais là, il y a un problème, tu vois. Mais après, oui, j'ai tout de suite... dès que je l'ai eu... tu vois, quand j'ai pris conscience que j'étais maman et que je pouvais m'en occuper, que je pouvais m'en occuper moi, parce que j'ai vite pris mon rôle hyper... Enfin, c'était mon amour, tu vois, c'était... Voilà. Donc, ça a été très vite derrière. Après, j'ai eu toutes les inquiétudes de maman lambda, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Tu vois, le... Ah bon, mais pourquoi elle dort un œil ouvert? Mais est-ce qu'elle respire? Tu vois, c'était comme toutes les mamans, je pense.
Donc, et est-ce que ça t'a soulagé cette dernière opération au moment de l'accouchement?
Bah oui et non, parce que j'ai eu un retour de couche très rapide, donc ils m'ont vite remis sous traitement.
Ouais.
J'avais toujours ces saignements qui perduraient après la grossesse, alors qu'on savait pas trop pourquoi. Et j'ai vite été mal, Et donc ça, c'est très dur à gérer quand t'as un bébé. En plus, moi, tu vois, je faisais beaucoup de portages. Et petite, ça me dérangeait pas. Mais plus elle a grandi, plus elle était lourde. Et plus je souffrais quand même parce que ça appuyait vraiment sur mon ventre. Mmh. Alors que normalement, on te dit que si tu le positionnes bien, oui, mais t'as quand même le poids, tu vois. Et en fait, j'ai été réopérée en septembre. Donc elle est en décembre. Et là, ils m'ont réopérée par voie vaginale. Ils m'ont sorti une énorme lésion qui avait traversé la paroi vaginale. Et c'est ça qui faisait que ça saignait tout le temps. Et du coup, ils m'ont fait une résection d'un tiers du vagin. Mais voilà, après, tu gères ça en plus de la petite, quoi. Tu gères tes saignements, tes douleurs. Anina, elle a été plongée dedans direct, hein, tu vois.
Ouais.
Pas eu de... Tout de suite, j'étais vite hospitalisée pour des douleurs, etc. Donc, elle a été vite mise dans le bain, tu vois. Heureusement, j'ai ma maman qui est venue. Parce que là, après une question, quand t'as un bébé, ben, William, il pouvait plus rester avec moi, hein, à l'hôpital. Tu vois, après, j'avais plus besoin de lui, en fait. Mm. Quand il était là, j'avais besoin qu'il s'occupe de notre fille. J'avais besoin qu'il soit là au réveil, bien sûr. Mais je voulais pas qu'il reste dormir avec moi. Et sur ça, je voulais qu'il s'occupe d'elle, tu vois, d'abord. Donc, j'ai été opérée derrière, et en septembre. Et là, on m'a dit, ben, là, vraiment, pour le deuxième, je dis, ce sera mort. Je dis, ah ben c'est pas grave, de toute façon j'en veux plus, j'en ai une déjà, c'est déjà assez compliqué à gérer pour moi, parce que t'as la fatigue chronique, t'as les saignements, t'as les douleurs, et ton bébé, tu peux avoir les trois cumulés, la douleur, les saignements, il s'en fiche lui. Hein. Mm-hmm. Il faut quand même te lever dans tous les cas, il faut te lever la nuit, il faut te lever à n'importe quel moment, il faut s'en occuper, et c'est quand même un moteur du coup, tu vois, ça permet de surpasser. Donc je m'étais dit, je me surpasse déjà pour une, ça suffit, tu vois, ça me va amplement, je ne veux pas refaire, et puis je voulais pas refaire une grossesse, je me sentais pas en fait. Et voilà.
Et puis finalement.
Et finalement, ils me remettent sous des capéthyls parce que je n'allais pas très bien, donc des capéthyls qui ne marchent pas chez moi, mais bon, j'accepte quand même. On part en week-end à Rome avec mon mari, et en rentrant de Rome, j'étais très très fatiguée. En fait, là-bas sur place, déjà, on a énormément marché, donc j'étais très fatiguée, j'avais beaucoup de crampes. Parce que, comme j'avais toujours ce problème que je pouvais pas faire pipi quand je voulais et où je voulais, je buvais pas trop, tu vois, mais on a quand même marché 60 km en 3 jours, tu vois, donc c'est énorme. Et j'avais cette fatigue, j'étais très épuisée en rentrant de Rome, et ça a duré. Et mon mari me dit, tu es enceinte, j'en suis sûre. Au bout de 3 semaines, il dit, je sais que tu es enceinte, j'en suis sûre. Et là, je lui dis, écoute, si je suis enceinte, je divorce. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Et je dis ça à tout le monde. Si vraiment, je dis, si tu m'as mis enceinte une deuxième fois, je divorce. Je ne veux pas. Je ne veux pas, c'est mort. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a été quand même acheté un test de grossesse. Et j'étais enceinte.
Et tu n'as pas divorcé.
Et je n'ai pas divorcé. Mais par contre, ça a été très dur.
Ouais.
Pour lui, c'était l'évidence. Parce que mon mari, il voulait 4 enfants, hein, faut le savoir. Moi, je me sentais pas du tout de repartir. Je ne pensais qu'à un truc, c'est-à-dire quand j'ai fait pipi sur ce bâton, quand j'ai vu que ça virait positif, je me suis dit comment je vais faire pour le mettre au monde.
Alors, c'était combien de temps après ton premier bébé ?
15 mois.
D'accord. Ah oui, en plus des bébés à rapprocher.
Ils ont 2 ans d'écart. Ouais. Mmh. Et là, je me suis dit, je ne vais pas y arriver. Je ne pourrai pas refaire ça. C'est impossible. Je ne vais pas pouvoir mener une deuxième grossesse comme la première. Je pourrais jamais être alitée parce qu'on a quand même une fille déjà. On vivait sur une maison avec 3 étages, tu vois. Donc faut, voilà, comment je vais faire? Et donc j'ai fait un espèce de blocage, je voulais pas revivre ça en fait, pas vivre cet accouchement terrible. Et quand je vais voir le gynéco et je lui dis je suis enceinte, il me dit non, c'est pas possible. Je dis mais si, c'est possible, si je suis enceinte. Et là il me dit bon ben, en plus ce qui s'est passé c'est que ne sachant pas que j'étais enceinte, une semaine avant de l'apprendre, j'ai refait une injection de décapéthyl, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc là, il m'a dit, écoutez, ne vous projetez pas trop vite, parce qu'on va déjà passer les 3 mois et après on verra. Parce que, avec l'injection des capéptiles, votre bloc qui est récent, on sait pas. Faut pas, voilà. On met pas à charge avant les bœufs, on va voir. Et du coup, j'ai un peu pris du recul, tu vois. Je me suis moins investie que dans ma première grossesse, forcément. Parce que déjà, j'avais la première à gérer. J'avais quand même des douleurs. Et vite, les saignements sont revenus. Donc. En fait, mes saignements, c'était tout simplement mes règles, hein, clairement. Et donc, je me suis un peu moins projetée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à 4 mois de grossesse, j'ai fait un AIT, d'accident ischémique transitoire. C'est une sorte d'AVC, en fait, très rapide. Sauf qu'on ne me l'a pas trouvé tout de suite. J'avais quand même une paralysie faciale et des engourdissements. Mais et la semaine avant surtout, parce que c'est important de le dire, j'avais des migraines très fortes, aveuglantes, et ça c'est assez typique des AIT, tu vois, des AVC, surtout chez les jeunes. Et donc ils nous ont mis du temps à me trouver, ils ont mis plus d'une semaine. Donc quand je suis passée, c'était fini, tu vois, il n'y avait plus qu'à rien à faire, juste moi à me remettre. Heureusement, il ne m'est rien arrivé de plus, tu vois. Donc j'ai perdu énormément de poids, je ne pouvais plus m'alimenter. Pendant un mois, notre fille, elle a été envoyée chez ma mère. Elle a été très mal aussi parce qu'elle a fait un zona, tu vois. Quand tu fais un zona 18 mois, c'est pas anodin. Mmh. C'était un peu dur pour elle. Et donc je me suis dit, ça plus ça plus ça, faut que je me préserve moi parce que je suis pas sûre que ce bébé, je pourrais le mener jusqu'au bout, quoi, tu vois. Mais il s'accrochait quand même.
Ouais.
Il s'est accroché, ce petit bonhomme. Je peux te dire que quand je suis arrivée à l'hôpital, que j'avais perdu presque 10 kilos, parce que j'étais mal, hein, je pouvais même plus boire. Ils étaient très inquiets pour le bébé parce que j'étais à 5 mois, je n'avais plus de ventre. Enfin, 4 mois et demi, plus de ventre. Ils ont fait l'échographie, ils m'ont dit, c'est un chef, il pète la forme, tu vois. C'est la première chose, je suis arrivée aux urgences à Nîmes, ils m'ont fait, c'est pas l'IRM, c'est l'échographie. Tout de suite, en 5 minutes, j'ai l'échographie, ils m'ont dit, c'est bon, tout va bien. Bon. Ok, et puis tu vois, il est né, il était prévu qu'il naisse par voie basse, parce qu'à la base, ça devait être un petit bébé comme notre fille, et à 6 mois de grossesse, ils m'ont dit, il va faire 4,7 kg, il passera jamais.
Ah oui.
Il ne passera jamais avec votre résection vaginale, on ne peut pas laisser faire ça, donc ce sera une césarienne. Et là, je me suis dit, ça va mieux se passer, c'est une césarienne qui est programmée, ça va le faire, quoi, tu vois. En plus, il était prévu pour le 25 décembre, donc je me suis dit, c'est pas plus mal qu'il naisse un peu avant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce petit bonhomme, il est arrivé... je me suis mis en travail le 5 décembre, donc comme pour sa sœur, voilà, que je suis allée aux urgences gynéco le 6, avec la sage-femme qui m'avait contrôlée, qui m'a dit, c'est bon, là, t'es en travail, il faut que t'y ailles. Et en fait, arrivé le 6, il décide de pas me faire la césarienne. Le 6 au soir. Parce que je ne tombe pas sur mon médecin, tu vois. Et le médecin qui était là me dit, je ne vous touche pas, je ne vous ferai pas de césarienne. En gros, je me sens pas. Pour le moment, le travail se fait, on verra. Et là, ils me disent, si vraiment ça se passe mal, on vous fera une césarienne, mais...
Mais ils avaient ton dossier avec tous les antécédents.
Et oui, oui. Mais je dis, mais attendez, c'est pas du tout ce qui a été programmé. Où est mon chirurgien? Il me dit, bah là, il est pas là, il sera là que demain. Et là, putain, la panique, tu vois, je me retrouve à la même date, dans la même salle de pré-travail. Et là, j'ai une angoisse qui est montée, mais vraiment... Un truc, c'est-à-dire j'avais 20 de tension, et j'étais très désagréable, je faisais que pleurer, trembler, je me suis dit, mais je vais revivre la même chose, quoi. C'est pas possible, on peut pas me laisser vivre deux fois la même chose. Et en fait, ils m'ont mis sous l'exomil, tu vois, très sympa, ils m'ont dit, écoutez, là, vous êtes ingérable, on vous met sous l'exomil. C'est super, tu vois, la compréhension de l'équipe, géniale, ça s'est super mal passé pendant toute la nuit. J'étais vraiment très renfermée, d'ailleurs, on s'est disputé avec William parce qu'il me disait... Détends-toi. Mais je dis, mais non, je ne peux pas, je peux pas, j'ai peur, tu vois. Je dis, tu comprends pas, c'est au fond de moi, c'est une angoisse, j'étais hyper angoissée. Et le lendemain matin, heureusement, mon gynécologue arrive, m'a dit, non, mais attendez, on arrête tout là. Et ils ont eu de la chance que mon travail n'avance pas plus, parce que ça faisait quand même plus de 30 heures que j'étais en contraction, tu vois. Et du coup, il m'a dit, non, on va vous faire la césarienne. Lui, il y a eu un changement d'équipe. Il a eu une urgence, donc j'avais quand même toujours mes contractions, hein, tu vois, tout ce temps-là, parce que ça, on n'en parle pas, mais j'étais quand même toujours en travail. Et du coup, il devait naître vers 9h, on me dit, 9h, on va en césarienne. En fait, on est parti en césarienne à 14h30, tu vois. Mais entre-temps, j'ai eu un changement d'équipe. Je suis tombée sur une équipe, une sage-femme qui était en or. Je lui ai vraiment parlé de tout, toutes mes angoisses. Je lui ai dit, mais comment je vais faire s'il naît comme sa sœur, comment je vais faire? Est-ce que je vais l'aimer? Est-ce que moi qui me suis mis tellement en retrait pendant toute cette grossesse, comment je peux faire, quoi? Maintenant, je suis au pied du mur. Il est là et il va arriver et j'espère qu'il va aller bien parce que j'avais pas vraiment créé de lien, tu vois. Je voulais pas, je me suis interdit en fait. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. De toute façon, on est là, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. J'ai envie de dire, non, me dis pas ça, dis-moi autre chose. Et en fait, elle m'a dit, écoutez, vous êtes la seule maman aujourd'hui à accoucher. On n'a pas d'autre maman, on n'a que vous. Et c'était vrai, c'est la première fois, mais c'est la première fois que ça m'arrive dans un CHU qui est qu'une maman, et c'est vous, c'est aujourd'hui. Elle me dit, vous avez toute l'équipe pour vous, et donc on sera tous là pour vous. Et donc en fait, ils m'ont fait rentrer en salle de césarienne, on était 12, tu vois, toute l'équipe. Ça fait du monde, tu vois. C'est pas très intime. Et en fait, elles m'ont fait une rachis, une péri, parce qu'ils m'ont fait les deux, parce qu'ils avaient programmé une opération du coup derrière, parce qu'ils savaient que ça allait être compliqué. Et du coup, elles se sont vraiment mises en cercle autour de moi. C'était vraiment des nanas super. Elles m'ont beaucoup parlé, elles m'ont accompagnée parce que j'avais très peur de la péridurale comme ils me l'avaient ratée pour la première fois, tu vois. Et elles ont vraiment été top, ça s'est super bien passé. Dès le premier coup, ils ont pu mettre la péri. Et ils ont fait naître notre fils, du coup, Malo. Et elles ont été super parce qu'elles m'ont fait faire du pot à pot au bloc. Ils m'ont vraiment accompagnée dans la naissance, dans le sens où ils m'ont demandé de contracter, tu vois, d'essayer de pousser pour essayer de... Tu vois, pour que j'ai quand même une sensation vraiment de naissance. Mmh. On n'était plus dans le facteur d'urgence de la première. On était vraiment pas dans la chirurgie, mais dans la naissance pour le deuxième. Et franchement, ça fait toute la différence, ouais. Tu vois. Tu vois, je suis devenue mère avec Nina et je suis devenue maman avec Malo, tu vois. Parce que j'ai vraiment pris conscience de ce que c'était. Tout le monde me disait, mais moi, je tombe amoureuse de mon enfant quand je l'ai vu. Ben, moi, non. Parce qu'en fait, il y a eu un temps tellement long... Mmh. Et c'était tellement surmédicalisé que je n'osais même pas créer un lien avec elle, tu vois, je savais pas trop comment faire. Et donc ils sortent Malo de mon ventre, ils me font faire un bisou vite fait, puis ils l'emmènent. Et deux minutes après, elle revient, elle me dit ce que vous voulez faire du pot à pot. Et là, écoute, je ne pouvais pas répondre, je me disais, mais attends, mais comment elle veut que je fasse? Tu vois, je peux pas. Et en fait, elle a dit, bon, mais détachez-la. Elle a poussé la couverture, elle a posé contre moi. Et alors là, moi je pleurais et je me suis arrêtée de pleurer. Et Malo était hyper angoissé, il hurlait, c'était horrible. Il s'est arrêté de pleurer. Et là, je dis à Marie, mais c'est le plus beau jour de ma vie. Quoi. Oui. Là, c'est vraiment, tu vois, j'ai compris ce que c'était ce sentiment. Et là, je peux te dire que Malo, personne ne l'a touché. Oui. Je l'avais en pot à pot contre moi tout le temps. Et là, j'ai vraiment profité de mon rôle de maman. Et je me suis vraiment mis en me disant, ça, c'est à moi, on me le vole pas, quoi. Et j'ai rattrapé tous ces mois de grossesse hyper compliqués. Et tout de suite, on est devenus hyper proches et c'était trop bien. Mais parce que j'ai une équipe qui m'a vraiment accompagnée. Et tu vois, je voulais pas l'allaiter. Parce que pour Nina, ça s'était mal passé. Finalement, je tirais mon lait, j'allaitais à côté. C'était plus une contrainte qu'autre chose. Et je m'étais dit, je sais pas si je m'en sentirais capable pour un deuxième. Et elles m'ont dit, écoutez, on vous propose de faire la tétée d'accueil. Vous en faites ce que vous voulez après. Pas de pression, tu vois. Elles m'ont pas mis la pression. Ouais. Elles m'ont mis au sein, ils s'accrochaient direct. Elles m'ont dit, ah ben là, vous êtes mal barrée, vous allaitez du coup. Bon, ben ok, tu vois. Et en fait, tout s'est fait parce que l'équipe avait vraiment été... Ils ont vraiment compris, en fait, cette angoisse que j'avais du premier bloc. Quand ils ont vu mon dossier, ils m'ont dit, c'est normal, vous êtes humaine, hein, il n'y a pas de... Elle me dit, vous auriez dû vous faire suivre, on aurait dû vous proposer un accompagnement psychologique après la première grossesse, après la première accouchement. Mais comme il n'était pas question d'un deuxième, on ne l'avait pas fait. Personne m'en a parlé, tu vois. Mmh.
T'as jamais été accompagnée dans toute
non.
cette maladie
et... T'as zéro accompagnement psychologique. À part si toi, tu vas consulter toi-même, on te dit jamais, écoutez, là, vous avez vraiment eu un accouchement qui est très traumatisant, il faudrait vraiment en parler. Jamais on m'a dit ça, tu vois. C'est tout de suite mis de côté. Et puis moi, je suis un petit peu comme ça, si je mets de côté et j'avance, je me suis dit, ça m'arrivera pas une autre fois, donc pas besoin. Et donc voilà, donc du coup, notre fils est né. Bon, après, mon endométriose, elle a perduré, tu vois. J'ai été opérée pendant ce bloc-là pour pouvoir refermer. Et ça a vite revenu parce que j'ai eu mon retour de couche au bout de 10 jours. J'étais pas tout à fait sortie de la maternité, que je l'avais déjà. Donc la maladie a continué et elle a même explosé après la deuxième grossesse, tu vois.
Ah oui?
Ouais, c'était la descente aux enfers. Ouais. D'ailleurs, tu vois, il est né en 2016, j'ai mon hystérectomie en 2018, quoi. Tu vois, c'était hyper rapide. Et j'ai été opérée 3 fois entre temps, tu vois.
Donc t'as eu combien d'opérations en tout cas ?
En tout 10.
10 opérations ?
Ouais, en tout 10.
Et alors il y a eu ce projet donc, que tu as fait d'ailleurs de partir à New York.
Ouais.
Comment ça s'est organisé ? C'est ton mari, je crois, qui a trouvé...
Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, j'ai été réopérée. Donc Malo avait 9 mois. Ils m'ont réopérée d'une récidive encore d'endométriose, alors que j'avais été opérée 9 mois avant, enfin bref. Donc là, on se dit, bon, là, cette fois, c'est la dernière. On le sentait bien, on s'est dit, c'est bon, c'est la dernière. Et au mois de janvier, j'ai recommencé à avoir des douleurs. Au mois d'avril, tu vois, j'y vais tous les mois au CHU, tu vois. Donc on voyait bien que mon état se dégradait. Au mois d'avril, en plus, on se rend compte que j'ai une grosse lésion qui s'est mise sur ma cicatrice de césarienne. Donc il faut savoir que ça faisait une bosse, tu vois. C'est assez énorme. Mais ça me faisait tellement souffrir. Au début, je voulais la garder, mais ça me faisait tellement mal. Toi, tu vois, t'es maman, tu sais, quand on porte les enfants, quand on les change, ils donnent des coups de pied, mais moi, ça tombait directement sur cette lésion. Je pouvais pas garder ça, ça m'a handicapé trop. Donc, on décide de la retirer au mois de mai. Et du coup, je lui dis, écoutez, je souffre tellement, c'est pas normal, j'ai une récidive. Et je le voyais bien parce que quand j'avais des relations intimes avec mon mari, de toute façon, moi, j'ai une récidive qui est toujours en recto-vaginal. Quand il m'opère, pendant les rapports, j'ai plus mal. Dès que j'ai une récidive, je le sens direct. Je sais, parce que je le sais comme ça. Et du coup, ils me font un toucher vaginale et rectale, enfin ils m'auscultent pendant ce bloc, pendant que je suis endormie, parce que ça leur permet de faire les choses mieux. Et là, ouais, grosse récidive. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin de ce bloc, mon chirurgien me dit, mais moi je prends une année, je pars en Polynésie. Ok. Donc,
bon voyage,
qu'est-ce que je fais? Ils me refont faire une IRM dans les 10 jours pour bien regarder. L'IRM tombe, verdict, oui, il faut réopérer, comment on fait, machin. Lui, il s'en va, il me laisse avec sa remplaçante qui savait pas trop quoi faire. Et en fait, je me suis sentie toute seule. Et William, ça faisait déjà un an qu'il me disait, écoute, on connaissait quelqu'un qui était parti là-bas, faut le faire.
Ah, pour se faire opérer, ouais. Aux États-Unis.
Ouais, on avait déjà quelqu'un qui l'avait fait. Il me dit, écoute, il a une bonne technique, ça peut le faire, tu pourrais peut-être éviter la poche. On y va, quoi.
Parce qu'en France, ça, ils le font pas?
Ben, ils font pas. Moi, où j'étais, ils faisaient pas des résections comme ça, complètes, d'endométriose, où ça revenait. Là, lui, il a une technique qui est à part, c'est-à-dire qu'il a un liquide de contraste, qu'il a breveté. Et il fait vraiment des résections complètes, tu vois, d'endométriose. Et donc, on s'est dit, bon, ben, on va là-bas. En fait, ben, tu vois, t'as la lésion, ça fait... La lésion, c'est comme une tumeur bénigne, en fait. Sauf que des fois, quand elle infiltre l'organe, ils peuvent la couper à ras. Donc, on s'est dit, on va là-bas. Parce que de toute façon, moi, j'avais plus du tout, j'avais complètement perdu confiance dans la médecine française. D'ailleurs, je suis pas toujours super à l'aise avec, encore aujourd'hui, tu vois. Je me suis dit, je vais là-bas, on va là-bas. Bon, c'était un processus hyper compliqué, hein, tu vois, c'est hyper long. On arrivait.
Ça coûte de l'argent aussi.
Ça coûte beaucoup d'argent, ouais.
C'était donc, combien tout ça?
En tout,
le voyage, l'opération, là-bas.
En c'est... tout, 55 000 euros, je crois.
Ah oui. Ton mari avait lancé une cagnotte.
C'est ça. Donc après, c'est beaucoup nos proches, tu vois, qui ont participé, et puis ça a permis de faire connaître un peu aussi la maladie. Mais franchement, c'est mes proches, et c'est surtout... Enfin, c'est tous mes proches et ma famille, tu vois, qui ont financé ça avec tout l'amour qu'ils ont pour moi, tu vois. Donc ça nous a beaucoup aidés. Et du coup, là-bas...
Alors, ce qui est drôle, c'est que t'es partie, tu disais, j'ai un problème 100% féminin, et je suis partie avec trois hommes.
C'était trop horrible. Franchement, à refaire, je ferais différemment. Je suis partie avec mon mari... Un copain à nous qui est médecin, enfin qui est en études de médecine, et mon frère, parce que mon frère est bilingue. Moi je parle pas très bien, mon mari un petit peu mieux, mais mon frère était complètement bilingue, et du coup pour les termes médicaux et tout ça, c'était beaucoup plus logique qu'il y en ait avec nous. Ça nous évitait de prendre un traducteur aussi sur place. Mais en fait sur place, en y réfléchissant, j'aurais pas fait comme ça.
Ah ouais.
Ouais, parce que c'était hyper tendu, la veille d'opération, mon frère était quand même très touché par ce qui m'arrivait, parce que je pense qu'il avait pas conscience vraiment de mon état. Il a vraiment pris conscience là-bas. Et tu sentais vraiment qu'il était hyper stressé la veille d'opération. C'était horrible. Mmh. C'était une tension qui était très extrême. Et lui était complètement impliqué. Tu vois, il n'arrivait plus à faire la traduction en étant extérieur, tu vois, comme une tierce personne. Il était trop impliqué, il donnait son avis. Du coup, je dis, mais t'as pas ton avis à donner. T'es mon frère, t'as pas ton avis. Mais si, c'est mieux pour toi. J'en ai parlé avec maman, elle m'a dit que c'est mieux pour toi, faire comme ça, comme ça. Bon, bref. Et du coup, je suis partie qu'avec des mecs. Et du coup, hein, la veille d'opération, je me suis vraiment sentie hyper seule, quoi. Tu vois. Même si t'es entourée et tout, tu dis, putain, je vais le faire. C'est... Et puis moi, tu développes forcément une phobie du bloc au bout d'un moment. Parce que c'est pas humain d'aller au bloc autant de fois, tu vois. Et là, tu vas dans un pays étranger, tu parles pas très bien la langue, tu sais pas vraiment ce qui va t'arriver. Le médecin m'avait refait faire des images sur place, mais il y avait quand même cette question de l'atteinte digestive. Et de la poche, donc clairement on a verrouillé le truc tout de suite en disant il y aura pas de poche, c'est pas une option, donc s'il faut on touche pas, tu vois. Donc j'étais prête à faire un pas sur ça, et en fait ils ont fait un gros bloc, hein, parce que je suis restée 6 heures je crois, et du coup ce qui s'est passé c'est qu'au bloc ils se rendent compte que mon utérus est complètement dans un état catastrophique, hein, alors que sur les images on n'aurait pas dit, on voyait que c'était abîmé mais pas autant. Et donc là, il a décidé de me faire une hystérectomie, tu vois. Alors que avant le bloc, il m'avait dit on la fera pas.
Ah oui.
Ouais. Il m'avait dit je sens pas prête du tout. On fera pas. On fera pas. Et il m'a dit si vous voulez revenir dans 3 ans, je vous ferai venir à mes frais. Je vous ferai pas payer. Vous viendrez. Je vous opérerai gratuitement. Parce que je sens vraiment que c'est un vrai blocage pour moi, tu vois. Du coup, il m'a dit on fera pas. On fera pas parce que on peut garder encore. L'utérus, ça va le faire. Et en fait, non, pas du tout. Ça ne l'a pas fait du tout, tu vois.
Donc à ton réveil, t'as
ouais, au bloc. Au bloc, ouais. Parce qu'en fait, là-bas, il te réveille au bloc.
D'accord.
Ouais, c'est la claque, tu vois. Il te réveille au bloc. Une douleur, mais... Je crois que c'était mon réveil le plus difficile. Parce que t'es pas arrivé en salle de réveil, t'es réveillé tout de suite au bloc, donc t'es encore plein dans la douleur. Et comme ils limitent quand même, parce qu'ils ont des gros problèmes d'addiction, tu sais, d'antidouleur aux États-Unis, ils limitent vraiment, ils te donnent, ils te réveillent, ils voient si t'as mal, ils te donnent un truc, tu vois, en gros.
Ouais.
Donc là, je me suis réveillée avec une douleur, un poids, en fait, j'avais l'impression qu'on me mettait, j'avais 100 kilos sur moi, tu sais, de ma cage thoracique à mon pubis, c'était horrible. Et donc là, direct, je leur dis, est-ce que j'ai une hystérectomie?
Ah, c'est la première chose à laquelle t'as pensé.
La première chose, direct. Je me suis dit, est-ce que j'ai eu ça? Parce que je le sentais. Donc tu vois, déjà, elle a dit, attends, faut que je le formule en anglais. J'étais complètement à l'ouest. Je me dis, attends. Du coup, je lui demande et elle me dit, yes.
Alors, comment ouais. T'as
réagi? Oh, bah là, j'ai pleuré. Là, j'ai dit, enfin, j'ai pleuré, mais sans larmes, en fait. Parce que clairement, j'avais pas la force, tu vois. Et du coup, j'ai dit, ah non, mon Dieu, comment... Et je me suis dit, comment je vais le dire à William, tu vois. Mais bon, il le savait déjà, en fait. Je savais pas, mais il l'a su avant, quasiment avant moi. Et du coup, je me suis dit, mais c'est fichu, tu vois, on voulait un troisième, un quatrième, on s'est dit... Tu sais, nous, on était partis, hein, on s'est dit, bon, on n'aurait jamais pu en avoir, mais on va en faire 10, tu vois, pour prouver à tout le monde qu'on pouvait en faire. Mais on voulait d'autres enfants, tu vois. Et du coup, ben là, le réveil, c'est hyper dur. Tu dis, attends, j'ai 28 ans, je suis à New York, je suis sans ma fête, enfin, j'ai mon frère, mon mari, tu vois. Tu dis, bon... Et là, maintenant, il va falloir vivre avec ça et avec tout ce que ça comporte, l'hystérectomie aussi, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, il faut faire super attention au prolapsus, aux descentes d'organes, tu vois, ça fait ça, ça quand même un vide, hein, tu vois, il n'y a pas que l'hystérectomie, tu vois. Puis tu te dis, est-ce que je suis femme, est-ce que je suis pas femme, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie, enfin, tu vois. Et puis du coup, ça s'est mis dans ma tête. Bon, bref. Donc, la salle de réveil, c'était très très dur. En plus, j'arrivais pas trop à communiquer parce que j'étais tellement ensuquée que j'arrivais même pas à dire. Tu vois, l'interne me dit mais pourquoi ça, pourquoi vous êtes comme ça, tu vois. Je lui dis mais parce que c'est au lieu, enfin, à part l'hystérectomie, c'est tout ce qu'il y a autour que ça comporte, tu vois. Toute la féminité, tout ça. Elle m'a dit mais vous serez toujours une femme. Hein. Du coup, je me suis dit, ah ouais, elle a raison, tu vois, c'est vrai. Bon. Alors ma voisine de chambre à New York était française. Elle me dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Donc on parle machin, hystérectomie, tout ça. Et elle me confie qu'elle a jamais eu d'enfant parce qu'elle a eu des problèmes aussi. Mais du coup, qu'elle a jamais eu d'enfant. Sauf qu'elle a 40 ans, tu vois. Et en fait, on a beaucoup parlé la nuit, le lendemain matin et tout. Et je me suis dit, bon, j'ai quand même 2 enfants, tu vois. J'ai réussi, hein, tu vois, quand même. J'ai 2 enfants. Aujourd'hui, je vais... Tu vois, malgré tous ces blocs, j'avais eu de complications majeures. J'ai quand même eu un AIT, j'en suis pas morte, tu vois. Bon, allez, faut en débarrer, quoi. Et du coup, et puis aussi, on était hyper portés par notre compte Instagram, par tous les gens qui nous suivaient, on se faisait énormément de messages. Et du coup, ça te porte, tu vois, tu te dis, attends, je peux pas me laisser abattre. Donc, du coup, je suis repartie, j'ai continué, tu vois, comme ça. Et j'avais quand même le moral, tu vois, je me sentais bien. Mais j'ai eu un espèce de gros coup en février, parce que le problème, c'est que l'endométriose, c'est quand même une maladie inflammatoire. Donc, dès que t'as une attaque un peu d'extérieur, ce qui te crée une inflammation. Moi, j'ai fait une récidive, pas à l'endroit où il m'avait opéré, mais beaucoup plus haute. Donc j'ai une récidive très rapide, en fait, juste après mon bloc. Et du coup, là, je la prends en février sur une IRM, que j'ai une récidive qui est assez haute. Et du coup, qu'il va falloir peut-être réopérer, tout ça. Et donc là, c'est la claque, tu vois. Là,
j'ai dit,
c'est sans fin. Et là, j'ai dit à William, ben là, je t'en veux, parce que c'est toi qui m'as emmené, je te déteste, enfin, tu vois, voilà. Et donc là, c'était un vrai truc, là, je me suis fait suivre, hein, quand même, parce que là, j'ai verrouillé avec tout le monde, hein. J'ai verrouillé avec ma famille, je voulais plus en parler, j'ai dit, c'est fini, vous n'avez plus votre mot à dire là-dessus, je ne veux pas que quelqu'un me dise, fais-toi opérer, fais-toi machin, c'est ma décision, donc j'ai hyper mal vécu, et en fait, mon psy me dit, mais c'est votre maladie, vous faites comme vous voulez, faites comme vous le sentez, mais il me dit, mais même, il me dit, est-ce que vous pouvez en mourir? J'ai dit, ben, peut-être, je ne sais pas, oui, il y en a qui en décèdent d'endométriose, mais qui en décèdent parce que c'est des blocs compliqués ou parce qu'elles font des overdoses d'antidouleurs, tu vois, ça arrive. Hein. Marilyn Monroe, on s'est rendu compte qu'elle était décédée de ça, tu vois. Et ouais, parce qu'elle a eu beaucoup d'opérations et qu'elle est décédée d'une overdose antalgique. Donc sûrement dû à son endométriose, tu vois. Bon, bref. Et du coup, je dis, ben, là, potentiellement, je prends pas de médicaments, mes atteintes sont pas... J'ai risqué une occlusion intestinale, mais je fais tout pour pas en avoir, tu vois, je fais hyper gaffe à ce que je mange et tout. Il m'a dit, écoutez, vous faites ce que vous voulez, il n'y a même pas un médecin qui doit vous dire ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas envie de prendre le traitement, vous ne le prenez pas, vous n'avez pas envie de vous faire opérer, vous ne le faites pas. Vous faites comme vous voulez, il me dit, c'est votre corps, vous faites ce que vous voulez. Et du coup, tu vois, j'ai refusé le traitement, que je ne prenais plus déjà. Et en fait, on s'est rendu compte au mois d'août que, à part un kyste fonctionnel qui s'était installé mais qui est parti depuis, j'avais quand même une stabilisation de ma maladie. Donc là, tu fais... Enfin, quoi, tu vois. Et donc là, je suis en phase de stabilisation. J'avais un côté où ça s'est amélioré. Donc des kystes qui se sont un petit peu diminués. De l'autre côté, quand même, au niveau des intestins, en fait, c'est monté beaucoup plus haut. En fait, c'est monté à un carrefour qui s'appelle le carrefour iléo-cécal. Là, j'ai quand même une lésion qui est assez embêtante parce que comme le carrefour n'est pas large, tu peux vite te mettre en occlusion, il faut faire super gaffe. Mais la lésion n'est pas énorme. Et donc, d'un commun accord, avec mon nouveau chirurgien qui est sur Bordeaux maintenant, on a décidé de ne pas opérer. Parce que, à moins d'un cas d'urgence dû à une occlusion, ce serait... les conséquences d'une opération seraient terribles, tu vois. Encore plus que ce que j'ai eu avant. Ouais. C'est-à-dire peut-être avec une sonde urinaire à demeure, peut-être une stomie à demeure, tu vois. Donc, du coup, il m'a dit, là, si vous êtes bien... Bon, lui, il voudrait que je prenne un traitement. Je lui ai dit que je n'en prendrais pas, tu vois, là je me sens bien. Alors oui, j'ai des douleurs, mais quand on y réfléchit, c'est pas toujours des douleurs d'endométriose, c'est surtout des douleurs de bloc, tu vois, de conséquences de chirurgie. C'est des douleurs qui sont hyper pelviennes, des névralgies pudendales, au niveau du nerf sciatique et du nerf crural aussi. Mais tout ça, c'est parce que ça a été tellement opéré dans ces zones-là que ça a modifié le message nerveux, en fait. Donc, du coup, je préfère rester comme ça, sans traitement. Moi, je me sens bien. Attention, je dis pas qu'il faut le faire. Hein. C'est ma décision. Mais moi, j'ai constaté que j'étais mieux sans traitement qu'avec toutes ces hormones où j'avais des récidives qui étaient hyper rapides. Et je voyais bien que ma maladie se servait des hormones pour évoluer. Parce que le premier mois, j'étais toujours bien. Et après, c'était la descente aux enfers. Mmh. Et donc, en fait, on s'est dit que la maladie devait, pendant un mois, essayer de comprendre comment fonctionnait le truc. Et après, elle s'en servait pour évoluer, tu vois. Donc maintenant, on va dire que je suis sans traitement et je me sens un peu mieux, quoi. Tu vois.
Et comment ça se passe au quotidien avec tes enfants ?
Ah bah c'est hyper dur, tu vois. Le matin, j'ai l'impression que je me lève, genre, je suis dans les starting blocks pour le marathon, tu vois. Et j'ai l'impression qu'à midi, je suis au 20e kilomètre et je me dis non, j'en ai encore 20 à faire, je vais crever, tu vois.
Parce que t'as des douleurs, j'imagine.
Bah j'ai des douleurs et puis j'ai quand même cette fatigue chronique, tu vois. C'est quand même... En fait, on se rend pas compte quand on dit fatigue chronique, ouais, mais tu vois, c'est vraiment le truc où tu te dis... Oh punaise, j'ai une assiette à laver dans mon évier, je peux pas, quoi. Je peux pas. C'est pas une question de mon volonté, c'est pas une question de flémardise, tu vois. Je dis, non, je peux pas, quoi. Je peux pas, je suis vidée. Et moi, je suis vidée, en fait. J'ai l'impression que je suis comme une batterie d'iPhone, tu vois. À 8h du matin, je suis attaquée. À midi, je suis morte, quoi, tu vois. Tu vois, j'ai une durée de vie très très courte, tu vois. Mais je m'accroche, et puis bon, je me dis, faut pas que... Ça a tellement impliqué sur leur vie, tu vois.
Tu leur en parles ?
Ouais, Malo, tu vois, en plus Malo, il est hyper... c'est un petit garçon qui est hyper sensible, tu vois, il a des troubles du comportement en plus, en bref. Mais tu vois, il est tout le temps, quand il veut faire un câlin, c'est toujours sur mon ventre, parce qu'il sent quand même que je suis pas bien, tu vois. Mais voilà, c'est... Au quotidien, c'est plus deux enfants rapprochés en 2 ans. Franchement, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée, hein. Mais oh là 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 là, c'est assez... D'un côté, je me suis dit, peut-être un troisième, c'était pas une bonne idée, tu vois, vraiment. Mais c'est hyper dur. Mais c'est hyper satisfaisant aussi. Parce que c'est mon moteur. Tous les jours, je me lève, je me dis, il faut que je sois maman, il faut que je travaille, et il faut que je me batte contre ça. Et je veux montrer l'exemple pour mes enfants en disant, on peut y arriver, tu vois. Alors c'est sûr, hein, j'ai des moments pas faciles. Mais tous les jours, j'arrive à me lever, les emmener à l'école, leur faire à manger. Et voilà. Et là, on menait à côté mes études, tu vois. Parce que du coup, j'ai repris mes études, comme je te disais. Mais voilà, je veux qu'ils soient un peu fiers aussi de moi, tu vois, forcément. Je veux pas qu'ils... Voilà. Mais bon, ils savent, hein, tu vois. Ils disent à l'école, aujourd'hui, maman, elle est malade. Parce qu'ils savent. Je leur mens pas, tu vois. Parce que si je leur dis pas, en fait, ils voient que je suis pas à 100% avec eux. Et c'est là qu'ils deviennent ingérables. Parce qu'ils sont capables de devenir... très très ingérable, tu vois, peut-être plus que d'autres enfants, parce qu'ils se rendent compte que je suis pas du tout avec eux. Donc quand ça arrive, j'élève le matin, je leur dis, écoutez, maman va très mal aujourd'hui, ça va pas du tout, il va falloir, je sais que c'est dur pour vous, mais il va falloir être sage et m'aider. Et du coup, je leur donne des tâches, tu vois, je leur dis, ben Malo, tu fais couler le bain de maman, tu m'aides, et du coup, ça se passe un peu mieux. Mais si je leur dis pas, et ça je l'ai compris il y a pas très longtemps, si je leur dis pas,
ils comprennent pas.
Ah, ils comprennent pas. Et c'est normal, tu vois, je peux pas leur demander. À 5 et 3 ans, tu leur demandes pas, quoi, tu vois. C'est... Donc maman, je leur dis, maman, elle va mal. Alors Nina m'a dit, mais c'est quoi ta maladie? Et en fait, un jour, je sais pas pourquoi, elle m'a dit, mais en fait, c'est comme si t'avais un loup dans ton ventre. Alors je dis, oui, voilà. Du coup, elle me dit, est-ce que ton loup est revenu? Oui, en ce moment, il est là. Bon, d'accord. Et en fait, elle voit ça, ouais, comme quelque chose, ouais, qui m'envahit de l'intérieur. Je lui dis, mais c'est pas vraiment un loup, mais c'est quelque chose, voilà, qui mange un peu, tu vois, les organes. Et, tu vois, j'essaie de trouver des mots, c'est pas facile, hein, de trouver. Ouais. C'est-à-dire que c'est dur à comprendre pour les adultes, l'endométriose. Alors, pour les enfants, c'est... Voilà. Mais au quotidien, tu vois, ils sont quand même... C'est quand même hyper satisfaisant. Et puis, j'ai réussi à être maman, tu vois, ce qui est le cas de beaucoup de... Il y a des jeunes femmes qui n'y arrivent pas. Et ça n'a rien à voir avec le stade, en plus. Donc... Par contre, je dis toujours, tu vois, sur mon compte Instagram, je dis toujours, vous voulez être maman, vous le saurez, d'une manière ou d'une autre. On s'en fout que ce soit naturel, FIV, adoption, tu vois. Ouais. Si tu, ça va arriver, faut jamais perdre espoir sur ça, jamais.
Oui, du coup, t'as créé un compte Instagram, tu fais des interviews de personnes qui ont...
De temps en temps, ouais, je fais des témoignages, ouais. Mmh. Voilà, comme ça, ça leur permet, en fait... Ça fonctionne un peu comme une plateforme, tu vois, j'essaie d'informer, tu vois, de parler de l'ALD, par exemple, tu vois, des infections longue durée, de se faire passer en 100% sécu, etc. De leur donner des clés pour qu'elles soient aidées, parce que l'endométriose, ça coûte très cher, hein. Ouais. Quand t'es pas pris en charge à 100%. Et souvent, les médecins, ils sont tellement occupés sur notre cas. Moi, t'imagines, je suis en ALD que depuis le mois d'avril. C'est-à-dire que pendant 7 ans, j'ai payé tous mes allers-retours, toutes les semaines au CHU, voire tout, enfin ça dépend, des fois c'est toutes les semaines, des fois tous les mois, ça te coûte un fric fou, tu vois, dépassement d'honoraires, tout ça. Et donc là, j'essaie de leur donner des clés pour, là tu vois, là, j'ai découvert qu'il y avait une cure à Chalais-les-Eaux, tu vois, une cure gynéco, pour essayer de leur donner des clés pour aller mieux dans leur quotidien, et surtout de leur dire qu'il faut faire du sport, c'est super important, même si t'as mal, faut faire du sport, c'est super important. Oui. Alors qu'on a tendance à se recroqueviller. Mais il faut faire du sport, il faut essayer de manger mieux, il ne faut jamais perdre espoir, il faut avancer, tu vois. Et du coup, je leur laisse une fois par semaine, je leur laisse la parole, en fait, pour qu'elles puissent exprimer et échanger avec d'autres. Voilà.
C'est devenu un petit peu un combat pour toi, maintenant, ce sujet?
Ah bah oui, ce sera le moteur de ma vie, tu vois, clairement. C'est pour ça que j'ai changé d'orientation et que je me suis orientée vers la sexologie, tu vois. C'est pas... Ce sera toujours mon combat. Parce que je veux pas que ma fille se retrouve dans ce cas-là, je veux pas que mes nièces, les filles de mes copines se retrouvent comme moi j'ai été un jour, tu vois. Ouais. C'est pas normal de se retrouver avec une stomie à 22 ans. C'est pas gérable. Alors oui, toutes les endométrioses ne sont pas comme la mienne, j'ai envie de te dire, heureusement, mais ça n'empêche pas qu'il y a peut-être des femmes qui sont peut-être des endométrioses plus superficielles, mais qui souffrent plus que moi. Mmh. Et ça, la douleur, c'est handicapant... physiquement et psychologiquement, tu vois. T'as pas de vie sociale, tu peux pas avoir une vie de travail normale, tu peux pas faire de projet, voilà. C'est paralysant, en fait. Ça te fait perdre confiance en toi. Avec le traitement, tu prends du poids. Enfin, tu vois, ça, c'est un aspect hyper global dans ta vie. Donc moi, je veux me battre pour que cette maladie, elle soit connue et reconnue. Mais je veux pas non plus passer un message hyper négatif sur la maladie, parce que clairement, moi, ça fait ce que je suis aujourd'hui. Mmh. Et je suis pas en paix avec ma maladie, mais presque, je pourrais presque dire que oui. Quand j'ai mal, je pleure de douleur, pas parce que je suis démoralisée, tu vois. Ouais. Voilà. Même si je sais pas comment je serai dans 10 ans. Parce que clairement, là, même avec une hystérectomie, ils savent pas trop me dire comment je serai dans 10 ans, mais ouais. Je prends au fur et à mesure. Et je trouve ça super important de passer un message qui soit plus posé, tu vois. Faut toujours essayer d'avancer par étapes, tu vois. Et essayer de trouver le mieux. C'est sûr que moi, tu vois, pendant longtemps, j'ai fait abstraction de l'alimentation. Je m'alimentais pas super bien, enfin, comme l'alimentation normale. Et tu vois, je me suis tournée plus vers les fruits, les légumes, arrêter la viande. Clairement, c'est un effet positif. Mmh. Tu sais, c'est pas négligeable, tout ça. C'est... Après, pareil, tu vois, ils te vendent des régimes anti-inflammatoires, des régimes ceci, des régimes cela. Mais c'est propre à chacun, tu vois, faut faire ses essais soi-même. Et petit à petit, t'arrives à retrouver une qualité de vie. Je retrouverai jamais celle que j'avais quand j'avais 18 ans. Hein. Clairement, je pourrais jamais faire ce que je faisais avant, comme avant. Mais bon, j'ai eu pas mal non plus, hein, tu vois. Je suis pas à plaindre, hein, clairement.
Et donc tu vas être sexologue pour justement aider les couples et qui sont dans les...
Ça, et puis les femmes aussi. Ouais. Parce que c'est pas parce que t'as une endométriose et que t'es une femme que t'as pas le droit d'avoir une sexualité épanouie. Hein. Même si ça reste hyper tabou, tu vois. L'orgasme féminin, c'est le tabou ultime. Non, non, la femme n'a pas le droit de prendre de plaisir, tu vois. Alors en plus, en endométriose, quand on me dit « Et comment ça va ?» Bah ça va. Ah bon? En gros, comment c'est possible? Tu vois, on arrive à avoir une sexualité assez épanouie avec mon mari, heureusement, tu vois. C'est peut-être ça qui nous lie, tu vois, je sais pas, mais ça fait qu'on n'a pas perdu le fil de l'intimité, ça c'est sûr. Même si on a eu des gros passages à vide, mais c'est super important, tu vois. Et là, tu vois, j'ai consulté pour la première fois dans mon parcours d'endométriose une sexologue dans un mois. Parce que ça fait partie d'une hospitalisation de jour où j'ai plein de rendez-vous. Mais c'est la première fois en 7 ans, tu vois. Mmh. On m'a jamais proposé un accompagnement psychologique ou d'aller voir une sexologue. Jamais. Donc c'est pour ça que je me suis orientée vers ça. Et j'ai hâte, tu vois, de m'y mettre. J'ai hâte d'avoir mon diplôme et de pouvoir commencer à consulter et à aider. Je me dis que ça peut apporter qu'un plus.
Parce que c'est compliqué dans les couples, cette maladie.
Ah oui, j'en vois plein qui pètent. Parce que déjà, quand ça touche à la sexualité, c'est forcément ça éloigne. L'endométriose, c'est une maladie gynécologique. Donc dès que t'as un rapport... Si l'homme se rend compte qu'il fait mal, après, il sait plus comment faire, alors que c'est pas de sa faute, hein, clairement. Après, des fois, tu peux avoir une appréhension psychologique qui s'installe. C'est pas du tout... je ne leur lance pas la pierre, hein. Clairement, c'est 100% normal. Mais ça peut créer une distance. Quand tu attaques une FIV aussi... Dans les couples, c'est ravageur, hein. Tous ces traitements, ces hormones, ces injections. Tu vois, tout ça mis bout à bout, et ben, ça fait qu'il y a des couples qui pètent, des fois. Alors qu'ils sont arrivés à leur but ultime, c'est avoir un bébé, et des fois, dans les mois après, ça pète. Parce que t'as toute la difficulté d'avoir l'enfant aussi avec, hein, mais parce que ça éloigne, forcément. C'est des maladies, c'est dur hein, pour les hommes. Les hommes n'arrivent pas à trouver leur place dans cette maladie, et on a... Des fois, j'entends des jeunes femmes qui me disent « Oui, mais bon, ils souffrent pas. » Ben, moi je peux te dire que William psychologiquement il a souffert. Ouais. Il a pas ma souffrance physique, mais il a cette souffrance de me voir mal. Tu vois là, il était en déplacement, il était pas là, il savait que j'étais mal, et il m'a dit je suis mal de te savoir comme ça, je ne peux rien faire. Mm-hmm. Il ne peut rien faire.
Et aujourd'hui on parle de plus en plus de l'endométriose. Toi avec le recul, on en est où en France? T'as pu voir aussi comment ça se passait aux États-Unis? Est-ce qu'on est en retard? Est-ce que...
Bah aux États-Unis, eux, ils prennent en charge la maladie depuis plus longtemps, tu vois, je dirais. Parce que le médecin qui m'a opéré, ça fait 30 ans qu'il opère ça. Après, clairement, au niveau de la prise en charge aux États-Unis, si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas pris en charge. Donc, vraiment, en France, on est quand même bien lotis, mais en termes général. Après, l'endométriose n'est pas encore reconnue comme une maladie invalidante. Et donc, tu ne peux pas avoir un 100% comme ça parce que tu as une endométriose. Il faut le justifier par un parcours. Après, moi, j'ai la chance d'être bien prise en charge parce que maintenant, j'ai mon 100% sécu. Mais ça fait pas très longtemps. Ça fait que 6 mois, hein, tu vois, alors que j'ai un parcours qui est long. Mais je trouve qu'on avance petit à petit. On commence à être reconnu. Il y a la parole qui se libère, pas qu'autour de l'endométriose, autour des règles, autour de tout ça. Et je trouve que c'est important dans la place des femmes, tu vois. C'est important que ça se fasse connaître, c'est important que cette maladie soit reconnue, ouais. Ça c'est super important. Petit à petit, on en vient, hein. Parce que tu commences à avoir beaucoup de femmes qui ont... Ouais, c'est ça, c'est reconnaissance d'affection longue durée. Tu peux faire un dossier MDPH, tu vois, quand t'es trop atteinte, et que c'est une vraie incidence, un vrai handicap, hein, au quotidien. Il y en a qui peuvent plus travailler, hein, tu vois. Donc ça commence à être accordé, et ça je trouve ça bien. Parce que clairement, tu peux vraiment tomber dans une situation très précaire à cause de l'endométriose. Tu vois, quand tu peux pas travailler, que tu travailles qu'à temps partiel, tu gagnes pas ta vie. Mmh. Et tu n'as pas de possibilité d'évolution non plus. Parce que tu ne peux pas travailler à 35 heures debout. Et donc ça, voilà, faut compenser. Et aussi, tu vois, moi avec l'ALD, ce que j'ai découvert, c'est que quand je suis en arrêt maladie, j'ai pas de carence. Voilà. J'ai pas de carence au niveau du paiement de mes indemnités. Donc je suis payée moins que quand j'ai travaillé, bien sûr. Mais, même pas maintenant, je suis prise à 100%. Mais parce que, tu vois, si t'atterris que tu peux pas aller travailler, mais qu'en gros tu t'absentes 5 jours, mais que t'es pas payée 3, ouais. Tu vois. Et c'est pas du cinéma, c'est un vrai problème. Donc je trouve ça important et ce serait bien au niveau qu'il y ait plus de prévention dans les entreprises ou même dans les écoles. Ça commence à se faire petit à petit, mais il faut vraiment que les infirmières scolaires soient formées là-dessus. C'est là, plus t'es pris tôt et mieux c'est en fait. Ça évite cette errance médicale de 7 ans quoi. 7 ans, t'imagines ? C'est énorme.
Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ce médecin qui tapait sur l'épaule et qui disait que t'étais une chochotte ?
Ah ben je l'ai revu. Non, c'est quelqu'un qui est... C'est un homme qui est un peu misogyne, qui est hyper bourru. Je lui ai dit, vous êtes passé à côté avec moi, vous avez complètement foiré la chose. Mais il s'est absolument pas remis en question. Ouais. Parce que j'ai revu, je te dis plusieurs fois, pour lui, il n'y a pas eu de... Ah oui, mais des endométrioses comme la vôtre, on en voit peu. Bah oui, mais bon, ça n'empêche pas que quand même, faut sortir de sa zone de confort, monsieur, pour docteur, pour diagnostiquer. Et c'est pour ça que je suis allée voir ailleurs, mais y a pas... lui c'était un élément clé, parce qu'il m'a vraiment dit non plusieurs fois, mais derrière j'en ai vu d'autres, des gynécologues, et t'en as pas un qui, sur un toucher vaginal, pourtant je souffrais le martyr, m'a dit, vous avez un problème. Ils ne l'ont pas senti, tu vois, au doigt, alors que le chirurgien digestif, lui, l'a senti direct. Direct, là, il y a un problème. Donc, il n'y a pas que lui, tu vois. Lui, il m'a marqué parce qu'il était vraiment très, très borné, pour dire poliment. Mais il y a eu les autres aussi. Et il y a ce... Tu vois, ce qui est très important dans l'endométriose, c'est quand on veut se faire diagnostiquer, c'est très important d'aller voir un centre qui est référent dans l'imagerie pelvienne. Moi, c'est ce que j'ai pas fait à l'époque, quand j'avais 16 ans, parce que c'était quand même il y a 14 ans, parce que je vais avoir 30 ans bientôt. Et du coup, ça n'existait pas. Et en fait, quand tu arrives avec un résultat, tu vois, avec une image négative, tu dis, bon, ben, sur cette image, non, je n'ai pas d'endométriose, et ben tout de suite, le diagnostic est écarté. Alors qu'en fait, c'est peut-être qu'un problème de lecture. Mmh. Et tu vois, sur Paris, il y a un Saint-Joseph, où tu as le docteur Petit, qui est spécialisé dans la lecture des imageries pelviennes, IRM, échographie, et il est spécialisé là-dedans. Ils ont fait tout un centre référent à Saint-Joseph, et petit à petit, ils forment des radiologues qui sont spécialisés là-dedans. Et ça, pour moi, c'est très important qu'une IRM soit très bien faite pour le diagnostic. Comme ça, tu n'y reviens pas 15 fois, tu vois. Et ça, c'est... Moi, j'en ai rencontré un à Nîmes, qui a été formé par le docteur Petit. Je vais en rencontrer une à Bordeaux, qui a été formée par lui aussi. Et c'est très, et c'est important que, en fait, il y ait des professionnels de santé bien formés, en fait. Parce que quand tu vas voir un gynécologue, tu lui dis j'ai une endométriose, que le mec il te dit qu'il sait pas ce que c'est. Ah ben alors là, je vais vous en dire, tu vois. Tu vois, ça me choque, moi. Mais parce que aussi, depuis pas très longtemps, on enseigne l'endométriose en fac de médecine. Alors qu'avant, on n'en parlait pas, c'était un paragraphe, quoi. Mmh. Alors que là, maintenant, faut savoir que je crois. Enfin, j'ai lu une étude, ça coûte 10 milliards à la sécu par an. C'est énorme. C'est la première maladie en France. Le diabète, je crois que c'est 2 millions de personnes. Le cancer, c'est en gros 2 millions. L'endométriose, c'est entre 2 millions et 4 millions. Et ça touche que des femmes. Tu vois, le diabète et le cancer, c'est mixte. Ça touche que des femmes. C'est la première maladie française. Et c'est celle dont on parle le moins. Mmh. Donc tu vois, moi, je rêve d'un mars jaune, quoi. Tu vois, on a l'octobre rose, je rêve que... La tour Eiffel s'illumine en jaune, tu vois. J'aimerais bien. Je vais faire... On va essayer de faire en sorte, mais on n'en parle pas encore assez, il y a encore beaucoup de travail. Parce que, comme c'est pas une maladie mortelle qui reste dans les esprits bénins, mais clairement ça a des impacts. Si vous savez le nombre de témoignages que je reçois tous les jours de femmes qui ont des stomies, qui ont des problèmes urinaires, qui ont des problèmes qui ne peuvent pas venir maman, qui travaillent plus depuis 2-3 ans tellement elles souffrent. C'est... Je te jure, des fois... En plus, moi, je suis hyper empathique. Des fois, j'ai envie de pleurer, quoi. Ouais. J'ai envie de pleurer parce que ça m'énerve. Ça m'énerve qu'on soit là. Ça m'énerve de voir qu'il y en a qui sont mal opérées et qui ont des conséquences plus graves que ce qu'elles avaient avant parce qu'elles ont été mal opérées. Ça, pour moi, c'est plus possible maintenant, tu vois.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Vas-y, dis-moi.
C'est quoi pour toi être une maman rochelaise ?
Ouais, bah ça fait pas 30 ans que je suis redevenue rochelaise. Et ben écoute, c'est super, on va à la plage, on fait plein de choses avec les enfants, c'est hyper épanouissant pour eux. Non, c'est bien, le cadre de vie est bien, nous on est bien là-bas aussi, tu vois. Et les enfants, ça leur a... Tu vois, on avait besoin de ce déménagement pour nous donner un nouveau souffle, quoi. Pour redémarrer sur quelque chose de positif, et depuis qu'on est là-bas, on surfe sur la vague du positif, tu vois. Donc voilà, non, c'est top. Après, moi, la maternité, même si c'est hyper dur et que des fois je pleure le soir, je fatigue et tout, c'est quand même un rôle qui est hyper épanouissant.
Quel est ton lieu kid-friendly préféré à La Rochelle ?
Il y a une boutique que j'adore, qui est rue du Minage, qui est une boutique pour enfants qui s'appelle Design-moi un mouton. Ça, j'adore, parce qu'ils ont plein de trucs trop bien pour les enfants. Après, moi, c'est plus des choses personnelles, mais je fais du bateau avec mon papa, tu vois. Je vais sur l'île de Ré, sur la plage. Pour moi, le truc le plus kid-friendly, c'est la plage.
Et quels sont les projets prévus rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Alors, moi, j'ai projet, parce que j'aurai 30 ans l'année prochaine, donc j'ai projet de partir en Inde pour faire une introspection de moi-même. Donc ça, ce serait mon projet de mon anniversaire, en fait. Et aussi, je pense que je vais partir faire une cure gynécologique à Challes-les-Eaux. J'ai découvert ça hier, donc là je suis en train de monter un peu le truc pour voir, pour diminuer mes douleurs du endométriose. Donc ça, c'est mes projets perso. Et il y a aussi ma reconversion en tant que sexologue, qui est super importante. Et nos projets de famille, tu vois, nous on vit un peu au jour le jour, parce qu'on sait jamais de quoi demain est fait, hein. On a appris à vivre comme ça, donc on a une visibilité qui est assez courte, sur 2 mois, mais tu vois, là on emmène les enfants à Disney pour l'anniversaire, ils ne le savent pas. L'important, tu vois, pour nous, c'est de profiter en famille, quoi, de faire des choses tous les quatre, et de profiter, et de... On se prend pas trop la tête, tu vois. Ça c'est les projets. Des vacances, bien sûr. Mais voilà, plutôt cool, tu vois.
Merci beaucoup, Chloé.
Je t'en prie.
Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur l'application podcast de votre iPhone. Pour échanger sur le sujet abordé avec Chloé, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 44 sur Instagram grâce au hashtag Le Tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. À mercredi prochain pour un nouvel épisode.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.